Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 avril de 18 à 21h, en différé jeudi 17, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Alors, ce soir, le clan de la presse, en l'absence de Jean Madiran, retenu. Ensuite, nous recevrons Gérard Anzo, vice-président de la Voix des Français. Vous voyez qui c'est la Voix des Français ?
Pas du tout.
Oh non, ben, c'est incroyable.
Moi, incroyable. Je ne sais rien, je ne connais rien, il faut qu'on m'explique tout.
Jean-Yves, ben, la Voix des Français, c'est une association qui entend faire entendre, c'est pas mal comme formule, la Voix des Français. Ensuite, nous recevrons Jean-Yves Bilien, qui est vidéaste, et qui nous parlera d'un reportage de vidéaste, oui, non, c'est pas quelque
que
chose
ça,
de sale, c'est tout simplement un réalisateur de vidéo, au lieu d'avoir une caméra de cinéma, il y a une caméra de vidéo. La vidéo, vous savez ce que c'est ? C'est le petit machin avec quoi on remplit les téléviseurs.
C'est très bien aussi.
Bon, et ensuite, nous recevrons Jean-Paul Arguars, prêtre. Ça, vous savez qui c'est ? Non, toujours pas.
J'ai encore des quelques petites notions lointaines.
Ça ne s'arrange pas. Hein. Donc, qui est le directeur du village de Riomont. Voilà. Et puis, nous finirons par Patrice Serre, qui est écrivain, dessinateur et sinologue. Voilà. Pourquoi vous riez ?
Pour rien, parce que je suis un peu bête.
Bon.
Continue.
On va faire une expérience avec le clan de la presse, parce que j'étais un petit peu gêné depuis le début d'être à la fois arbitre et joueur. Ça se fait pas dans les sports de gentlemen. Et donc, j'ai demandé à Patrick Goffman de prendre la place d'arbitre et de me ravaler, si j'ose dire, au rang de simple intervenant, au lieu d'être un intervenant compliqué, comme je suis d'habitude. Donc je serai là pour représenter le Libre Journal, et je serai donc pour une fois à égalité de temps de parole. J'essaierai en tout cas de me taire quand ça sera pas mon tour de parler avec Camille Gallic de Rivarol. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Emmanuel Ratier, j'aurais dû dire d'abord Jean-Claude Varane, mais sur ma liste j'ai écrit d'abord Emmanuel Ratier de Faits et Documents.
C'est l'ordre alphabétique. Emmanuel.
Bonsoir Serge.
Jean-Claude Varane de National Hebdo.
Bonsoir.
Que je trouve bien renfrogné, élégant et renfrogné. Et puis Jean-Claude, je me permets de te dire quand même une chose, quand on est le représentant du Front National, de la presse du Front National autour de cette table, on ne porte pas de chemise noire. Heureusement qu'on n'a pas la télévision.
Ça ne pouvait pas manquer d'être dit. Merci.
Enfin, tu es très beau, très élégant. Voilà, maintenant je me tais. Et puis, j'ai dit que Henri de Fersen serait là. Est-ce que je l'ai dit? Bon, je le dis maintenant, voilà. Il viendra tout à l'heure. Il n'est pas là pour le clan de la presse, parce que vraiment, le studio est trop petit pour accueillir les innombrables journalistes qui se pressent à la porte. Alors, Patrick, comme convenu, voilà, vous avez la parole pour arbitrer ce débat. Alors, on n'a pas répété, on n'a rien prévu, donc vous vous débrouillez. Voilà.
En effet, non seulement on n'a rien prévu, mais pour continuer à tout dire aux auditeurs, selon notre coutume, ben, je commence par les saluer. D'ailleurs, bonsoir Serge de Bekech, bonsoir à nos invités et aux innombrables auditeurs de Radio Courtoisie, à qui donc je vais révéler que cette formule avait été envisagée il y a une quinzaine de jours, et puis croyais-je écartée. Et donc je suis un peu pris au dépourvu de me retrouver avec le costume et le nœud papillon d'arbitre. Alors, en ma qualité d'arbitre, Serge, je commence par vous taper sur les doigts immédiatement pour montrer à quel point je suis un bon arbitre tout à fait indépendant. Pourquoi dénoncer la chemise noire de notre ami Varane alors que la plupart de nos auditeurs n'ont pas la radio en couleur? Vous savez que vous me rappelez péniblement, douloureusement, un autre sycophante, comme dirait Victoria, qui a nom Guy Millière et qui, lui, dénonce sur le site Front Page Mag, oui. Le site américain Front Page Mag.
Non, oh, pas, il dit des choses pas très agréables. Mais...
Non pas une chemise noire, mais
oui. Je crois que c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus longuement, bien. À mon avis. Moi, je préférerais que...
Faisons du constructif.
Voilà, j'allais le dire. Pardon de vous interrompre, mais je pense que nos auditeurs, pourvus de l'Internet, pourront se renseigner eux-mêmes. Ça les édifiera au moins aussi bien que si nous le faisons, nous.
Bien. Hein? Donc les sycophantes sont évacués. Je dois dire d'ailleurs que vendredi dernier, j'ai vainement guetté l'apparition de Guy Millière à ce micro. On a eu une émission extrêmement pieuse pendant 3 heures et pas de Guy Millière.
Mais on aura une émission pieuse ici aussi, puisque j'ai invité le père Argoche, parce que je n'oublie pas, chose qui vous passe probablement largement au-dessus de la tête, que nous sommes le mercredi saint. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il prend un air extrêmement étonné.
Nouveau choc.
Alors, plus rien. Maintenant, je reviens.
L'arbitre ayant été par deux fois arbitré, il n'a plus qu'à distribuer la parole et commencer par distribuer les sujets. Je pense qu'il est. Je ne vais pas être arbitré brutalement cette fois si je dis qu'il est difficile d'esquiver, de ne pas commencer par l'actualité internationale. Je pense que tous ici ont suivi de près aussi bien les activités américaines en Irak que les menaces qu'ils font peser à présent sur un pays voisin, que la poursuite de la construction de l'axe Paris-Berlin-Moscou à Saint-Pétersbourg pour son 300e anniversaire. Je voudrais, avant de commencer à interroger donc les représentants de la presse patriotique ici présents, indiquer qu'il faut, avant d'examiner l'avenir, d'essayer de deviner l'avenir, regarder le passé en ce qui concerne les récentes interventions américaines. Est-ce qu'il n'est pas frappant de voir la situation en Afghanistan, par exemple, qui est généralement passée sous silence dans la grosse presse? Je crois savoir que le président Barzai, désigné par les Américains ou peu s'en faut, est claustré dans sa capitale, que les talibans sont de retour dans le sud de l'Afghanistan. De la même manière, je crois qu'en Bosnie, ce sont les Américains, les troupes américaines, qui sont claustrées, enfermées dans leur grande base militaire du Kosovo, voulais-je dire, et qui laissent les autres autres contingents se débrouiller. Alors, est-ce que on ne va pas, après le triomphe apparent que nous rapportent les médias en Irak pour les Américains, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une situation de ce genre ? Honneur aux dames, Camille Gallic de Rivarol.
Vous avez parlé de l'Afghanistan. Justement, nous avons cette semaine, dans le numéro qui sera en vente demain, un article sur l'Afghanistan, opium, énergie motrice de l'Afghanistan, parce que c'est absolument... jamais les récoltes n'ont été aussi fabuleuses qu'en ce moment. Et c'est évidemment un danger énorme pour le monde entier. Le monde entier qui est dans une situation, évidemment, plutôt catastrophique après cette intervention contre l'Iran qui touche tout le monde arabo-musulman. Non seulement le malheureux Iran qui connaît maintenant l'Irak, qui connaît le...
C'est un lapsus très heureux, Camille, je crois.
Oui, mais enfin, quand on voit justement que la pente de république islamique que risque de prendre le vilayet de Bassora et peut-être l'ancien vilayet de Bagdad, avec le poids du clergé chiite et des ayatollahs en ce moment... évidemment, la nature a horreur du vide et le clergé chiite joue sa carte avec une maestria et une énergie qu'on ne peut que sinon admirer, du moins constater. Ce numéro sera d'ailleurs titré Apocalypse Chaos, mais... Je voudrais demander aux confrères s'ils ne pensaient pas que cet apocalypse était un petit peu recherché aussi. Parce que je voudrais lire une citation qui est de Monsieur Michael Ladin, qui est l'adjoint de Richard Perle et l'un des idéologues du Pentagone et de la Maison Blanche. D'abord et surtout, nous devons en finir avec les régimes terroristes, à commencer par les trois grands, Iran, Irak et Syrie. Puis nous nous occuperons de l'Arabie Saoudite. Une fois débarrassés des tyrans, nous ne nous en tiendrons pas là. Il nous faut accomplir la révolution démocratique. La stabilité est une mission indigne de l'Amérique. Un concept trompeur à écarter. Nous ne voulons pas de stabilité, ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran ou en Arabie Saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. C'est dans son livre « Guerre contre les maîtres de la terreur ».
Moi, je crois que
nous voulons déstabiliser.
Je crois que c'est la recherche du chaos. C'est une des motivations principales de cette opération, et on en a des preuves diverses. Il y a effectivement la citation tout à fait troublante que vous venez de faire. Il y a les citations de Bjajinski dans son livre Le Grand Échiquier, il dit à peu près la même chose. Il y a les déclarations de Kissinger à plusieurs reprises, qui a dit qu'il fallait réduire la population du globe par ce qu'il a appelé un benevolent genocide, c'est-à-dire un génocide bienveillant, ce qui est une formule immonde, totalement démoniaque. Un génocide bienveillant. Bon, ça se règle par la guerre, tout simplement. Et on sait maintenant, de façon à peu près certaine, que les pertes évaluées, les pertes avouées en Irak sont minorées au dixième. C'est-à-dire qu'il y a eu probablement 10 fois plus de pertes par les Américains qu'ils ne le disent, par les Anglo-Américains qu'ils ne le disent, du côté anglo-américain, mais il y a eu également probablement 10 fois plus de morts irakiens que ça n'est avoué. C'est un véritable massacre qui s'est déroulé là-bas. Et cette position, elle était la position que vous évoquez là, elle était déjà dans les travaux, dans les projets de Perle, quand il a créé en 97, on en parle dans le Libre Journal qui vient de sortir, un groupe baptisé The Project for a New American Century, autrement dit un projet pour un nouveau siècle américain, projet auquel appartenait, c'est quand même extraordinaire d'ailleurs, c'est fondé par Pearl, et les membres de ce bureau s'appellent Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, Randy Schneumann et William Krista et Norman Podoretz. On finirait par se poser des questions. Eh bien, ces gens-là ont donc lancé un appel à l'attaque contre l'Irak dès 97, et parmi le projet expliquait de façon très claire qu'il fallait d'abord attaquer l'Irak, ensuite qu'on s'en prendrait à la Syrie, ensuite à l'Iran, ensuite à l'Arabie Saoudite, et qu'il fallait absolument déstabiliser cette partie du Moyen-Orient. Et c'était pas nouveau, puisque dès 82, il y a eu un rapport d'un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélienne, Yoded Yenon, qui a été publié dans la revue officielle israélienne de prospective qui s'appelle Kivunim, numéro 14, publié par le département de la propagande de l'Organisation sioniste mondiale à Jérusalem. Et on avait publié dans le 287 des extraits de cette déclaration, de cet article, qui expliquait exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire comment on allait générer au Moyen-Orient, le chaos qui permettrait de provoquer un véritable génocide des Arabes dans cette région. Moi, je crois que le projet, à l'heure actuelle, il est extrêmement simple. Quand on dit les Américains prennent des risques parce qu'ils se sont engagés en Irak, où ils n'arrivent évidemment pas à maîtriser la situation, on le voit tous les jours, tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout envie de la maîtriser, ils se préparent évidemment à faire une action contre la Syrie, ça c'est très clair, ensuite ils s'en prendront à l'Iran, et puis ils appliqueront le plan comme ils ont décidé de l'appliquer, et ce qu'ils veulent naturellement faire, c'est créer un tel état d'insurrection généralisée et d'insécurité, qu'un jour ou l'autre, on leur demandera de recourir à l'arme nucléaire pour remettre de l'ordre dans cette région. Et je suis certain que c'est le projet américano-israélien qui est de vitrifier, en tout cas de liquider les populations du coin pour faire une redistribution des territoires. Et notamment mettre en place Eretz Israël, c'est-à-dire le Grand Israël qui va jusqu'au détroit d'Ormuz. Et peut-être, s'il en reste, de prendre un morceau de l'Irak pour installer les Palestiniens, comme ça a été annoncé d'ailleurs très très clairement par l'entourage de Bush, qui a dit on prendra un morceau de l'Irak pour créer une nouvelle Palestine. Voilà. Donc je pense que ce chaos, il est non seulement volontaire, mais il est l'objectif même de l'opération qui a commencé le 11 septembre et qui a justifié les opérations qui ont été conduites depuis. Et c'est ce qui me fait penser que le 11 septembre, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est une opération qui a été montée de toutes pièces par des gens qui sont des serviteurs de Satan, tout simplement. Ça, c'est mon opinion. C'est pas une opinion très rationnelle, je le sais bien. Mais enfin, je voudrais bien qu'on m'explique ce que la situation actuelle a de rationnel.
Merci, Serge de Bekech. Emmanuel Ratier lève la main. Je vais poursuivre plutôt le tour de table et interroger Jean-Claude Varane, si vous pouvez patienter un instant, en relevant simplement au passage, pour essayer d'orienter votre réponse de façon à ce qu'elle complète un peu les interventions précédentes, en relevant que le caractère criminel d'une fraction au moins de l'administration Bush, il est étonnant, il est amusant de s'entendre accuser d'anti-américanisme comme si nous haïssions le paysan du Middle West ou le pêcheur de Floride quand nous protestons contre l'orientation d'une clique qui a été fort mal élue. Monsieur Bush a eu moins de voix que Monsieur Gore à l'élection présidentielle et qui n'a pas averti de ses projets. La semaine dernière, Serge de Bekech...
Si, on le savait, on connaissait les...
Oui, mais
les
précisément,
que les,
on citait...
Serge l'a dit, nous, on savait parfaitement qui était l'entourage qui constituait la...
Nous le savions, Camille, oui. Et nous le disions, mais par exemple, on vient de citer le nom de Paul Wolfowitz. Moi, j'en ai entendu parler très fréquemment sur cette antenne. J'ai lu son nom dans notre presse, dans la presse patriotique, mais c'est pour la première fois la semaine dernière que j'ai entendu le nom de Paul Wolfowitz sur France Inter, sur un gros média, Pourquoi ? Parce que ce monsieur avait fait une sortie devant le Sénat américain et annoncé avec perte et fracas que la France allait payer son attitude. Mais depuis des mois, je ne lisais son nom que dans la presse patriotique et il était étouffé, comme ses activités étaient à peu près cachées à la grande majorité de la population américaine, qui d'ailleurs s'abstient à 60% aux élections et qui n'est certainement pas au courant de ces noms-là. Donc je relève, avant de donner la parole à Jean-Claude Varin, le caractère criminel. Je pense que les déclarations qui viennent d'être citées par Camille Gallic et par Serge de Bekech ont un caractère évidemment criminel. De même, Richard Pearl a été pris, nous l'avons dit et nous l'avons écrit, la main dans la poche des rois du pétrole, avec en train d'exercer du chantage, disant « Vous aurez la guerre, je ferai une campagne de guerre contre vous si vous ne m'allongez pas à ma société privée tant de milliards de dollars ». Alors Jean-Claude Varane, est-ce que l'éditorial que j'aperçois d'ici de National Hebdo se penche sur ces questions ?
Oui, il se penche sur ces questions. Je crois qu'on est là un peu dans le fond du problème, et les analyses qui viennent d'être faites, c'est quand même quelle est vraiment l'idéologie américaine de Bush. Serge de Bekech vient de développer, mais alors si c'est vraiment ça, ça devient vraiment catastrophique, parce que effectivement, c'est l'Irak, c'est la Syrie, et ainsi de suite. Alors effectivement, on veut tuer certainement beaucoup sur l'islam. Et ce que je crois, c'est que les Américains, en plus de ça, vont beaucoup plus loin, car il y a aussi le phénomène culturel. Quand on voit qu'à Bagdad, le musée de Bagdad, qui est toute une histoire du Moyen-Orient, a été complètement dévasté et les Américains n'ont pas bougé. Alors il est un fait que les Américains n'ont pas d'histoire et qu'ils ne comprennent pas l'histoire des autres pays. Et qu'effectivement, tout ça, nous rentrons dans un système. Est-ce que nous allons pouvoir le contrôler ? Est-ce que la France, est-ce que l'Europe va pouvoir jouer un rôle ? L'autre question, c'est le problème, est-ce que l'ONU revient en surface ou est-ce qu'elle disparaît complètement ? Ce qui voudrait dire que l'idéologie américaine, enfin l'idéologie Bush, c'est l'idéologie de demain qui va faire surface et qu'il faudra accepter. Je crois que c'est là qu'il faut peut-être voir jusqu'où vont aller les Américains dans ce domaine.
Merci. Emmanuel Ratier, vous, dont la revue Faits et Documents annonce le divorce de Fabius 3 mois avant Paris Match, vous savez sûrement si c'est un hasard, si c'est par hasard que le ministère du pétrole est resté intact à Bagdad pendant qu'un des plus précieux musées du monde était pillé.
Oui. J'aurais aimé quand même rebondir avant de répondre à cette question sur ce que disait Jean-Claude à propos de la culture et de l'idéologie américaine. En fait, ce qui s'est produit, il faut jamais oublier que les gens qui sont partis aux États-Unis pour coloniser les États-Unis en supprimant les populations indiennes étaient des marginaux en Europe. C'est-à-dire qu'ils appartenaient notamment à des sectes fondamentalistes protestantes. C'était des gens qui n'arrivaient pas à s'adapter à la société européenne et qui voulaient une rupture en créant un nouveau monde. Les élites culturelles qui se sont petit à petit formées ont eu la volonté, au départ, d'imiter l'Europe. L'Europe était le centre de la culture. Et dans le style américain, par exemple en écriture ou en peinture, pendant longtemps, le must, qui était la référence, c'était l'Europe. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience des élites intellectuelles, ce qui n'était pas du tout le cas de la population de base, de la classe moyenne qui est extrêmement peu cultivée. Ils ont décidé que maintenant c'était la vieille Europe et que c'était plus la peine de leur ressembler. Exactement comme un jour les Romains ont décidé de se passer des Grecs. Et on est véritablement au début d'un millénaire extraordinaire avec une espèce d'idéologie très particulière regroupée autour de Bush, où on pourrait dire d'un côté il y a des fondamentalistes protestants comme le ministre de la Justice, Ashcroft, qui est issu, par exemple, d'une université qui est connue comme étant assez nettement antisémite. Et de l'autre côté, vous avez l'alliance extraordinaire avec les néoconservateurs, qui sont les faucons sionistes. Et pour la première fois aux États-Unis, vous avez deux branches qui, étaient marginales qui maintenant tiennent une idéologie. Et c'est vrai qu'ils ont une idéologie conquérante. Et ce qui est très étonnant, c'est un peu, je dirais, à la manière marxiste, ce qu'on ne voyait pas avant, c'est que ces gens écrivent à l'avance ce qu'ils vont faire. Alors que dans la théorie libérale, en général, la première chose qu'on oublie du RPR, c'est le programme qu'il a aux élections.
Oui, parce qu'il n'a pas.
Il n'a pas d'importance.
Hitler
alors que
avait
là,
déjà fait ça, il avait
vous avez cité Brzezinski, il y a eu toute une série d'articles dans National Hebdo sur l'idéologie des faucons, Rivarol en est revenu. Bon, on est au courant de ça. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs que Le Monde, hier ou avant-hier, pour la première fois, a présenté des personnages décédés aujourd'hui, dont nous, on a parlé depuis plusieurs mois dans nos journaux, qui ont formé justement ces faucons néoconservateurs. Et on peut dire vraiment qu'il va y avoir un changement, il y a un changement très net, dont on n'a même pas conscience. On part vraiment dans des directions nouvelles.
Serge de Becquetch, sans nous égarer, est-ce qu'on peut dire que François Brignot, dans le dernier numéro du Libre Journal, a raison, polémique mise à part, de parler de victoire judéo-baptiste? C'est un peu ce que nous dit Emmanuel Ratier aussi.
Je crois tout à fait. J'allais dire, ce qui me frappe dans l'examen qu'on fait en général de cette guerre, que ce soit la presse patriotique ou la grande presse en général, peu importe, c'est que on néglige un aspect qui est pourtant l'aspect essentiel de la vie humaine, c'est l'aspect que je dirais transcendantal, métaphysique, surnaturel, irrationnel, je ne sais pas comment il faut appeler ça, peu importe, mais il y a une dimension là qui est tout à fait frappante dans cette histoire. On a l'impression que certains pousse une espèce de golem qui est l'Amérique. Pour ça, je suis toujours un peu choqué quand on dit les Américains font ci, les Américains font ça. Non, les Américains, c'est un peuple compliqué, et comme tous les peuples d'ailleurs, mais eux particulièrement, parce que c'est un mélange de tendances, d'ethnies, de races, d'habitudes, de coutumes, de traditions, de cultures, etc. Bon, donc les Américains, ils font... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un groupe mafieux de gangsters politiques dirigé par M. Bush, poussé au cul comme un golem par des opérateurs de ce golem, qui envoie ce golem armé de toute sa force de la puissance militaire américaine contre l'ennemi. Alors l'ennemi, pour l'instant, c'est les Arabes. Bon, une fois que les Arabes seront liquidés, il y aura un autre ennemi, ce sera les Européens.
Il circule sur le net une photographie de chars américains dans le désert irakien avec à la craie « Today Baghdad, tomorrow Paris ».
Oui, voilà, c'est ça. Moi, je crois tout à fait qu'il y a...
Nord Paris.
Il y a un risque... Bon, il faut savoir aussi que les rabbins, par exemple, sont obsédés par l'appellation qui est donnée à la France du nouvel Israël. L'Israël, le Messie des nations, la fille aînée de l'Église, tout ça. Ça fait partie de la documentation qui doit alimenter notre réflexion sur cette affaire. À mon avis, ce qui se passe, c'est quelque chose d'absolument tragique. C'est un drame gigantesque. C'est un drame de nature apocalyptique. La position, on voit bien que la position du pape, les déclarations qu'il essaye de faire, la voix qu'il essaye de faire entendre qui passe mal, pour mille raisons, d'abord parce qu'elle est mal répercutée, puis ensuite parce que même chez les catholiques, elle est mal reçue à cause du passé de l'Église, du passé récent de l'Église, à cause de la rupture entre la tradition et l'Église conciliaire, rupture qui a d'ailleurs été organisée par des gens qui ne sont pas étrangers au système actuel. On voit bien que c'est toujours la même chose qui se passe. Il s'agit de briser des ensembles, et ensuite, cette vieille théorie, on brise des ensembles, et ensuite on attaque ces ensembles morceau par morceau. C'est la course des Horaces et des Curias. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la dimension, je le répète, satanique, il n'y a pas d'autre mot de ce que nous vivons aujourd'hui. Avec des images qui sont très frappantes, l'image de cet enfant au bras arraché, qui symboliquement a une force extraordinaire, parce qu'elle montre qu'on a littéralement arraché les bras de l'avenir. L'avenir ne peut plus exister à partir du moment où il n'a plus de main pour se créer. Il y a le saccage du musée de Bagdad.
170 000 pièces.
Sous les yeux de 170 000 pièces, sous les yeux des militaires américains. C'est même pas des militaires américains, parce qu'à côté de ça, on nous explique que c'est une espèce de compost, de chicanos, d'asiatiques, de gens qui n'ont même pas la nationalité américaine, et auquel Bush a dit, vous deviendrez américain si vous vous battez bien contre...
Oui, il y a un soldat.
Je finis tout de suite, Emmanuel, si vous permettez. Le saccage du musée de Bagdad, Il faut savoir que c'est quelque chose de fantastiquement grave sur le plan de la culture mondiale. Tout à l'heure,
je demandais si c'était un accident.
L'histoire du Moyen-Orient. Oui, mais c'est aussi toute l'histoire du monde. Mais c'est l'histoire de l'écriture, c'est l'histoire.
Il y a Serge, il y a 5 ou 6 ans, il y a eu une magnifique exposition à l'Institut du Monde Arabe sur la naissance de l'écriture. Et presque tout venait de Bagdad, presque toutes les pièces. Je dois dire
aussi
qu'il n'y avait personne à cette exposition, d'ailleurs. Mais enfin, elle était magnifique.
Alors, merci de votre brièveté, Camille. Brièvement, notre ami Ratier, et ensuite, comme nous arrivons à mi-chemin de notre réunion, on donnera la parole aux éditeurs. Et je vous demanderai de laisser Victoria, sans l'interrompre, lire les messages qu'elle juge bons jusqu'au bout, en prenant des notes si nécessaire pour leur répondre. Emmanuel Ratier fait des documents.
Donc très vite, sur l'histoire du musée de Bagdad, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 2 pays développés qui ont refusé de signer la clause de non-pillage des sites archéologiques dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de politique, je ne parle pas de rendre les pièces, mais les 2 pays qui ont refusé, qui considèrent comme normal d'alimenter leur musée en continuant à piller le monde, c'est l'Angleterre et les États-Unis. C'est la fameuse histoire, si vous voulez visiter Bagdad, passez d'abord par le British Museum.
C'est vrai.
Bon. Ou, quand on vous dit, mais les plus belles pièces égyptiennes, allez au British Museum. On connaît tous ces exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais faire un article dessus, il y a eu une réunion, j'ai les dates, on a les noms des gens qui ont participé, il y a eu une réunion des grands collectionneurs américains et des propriétaires des grands musées américains. Le système des musées américains sont des fondations alimentées, financées par des grandes entreprises. On rencontré l'administration Bush avant les événements, avant la guerre, et ont indiqué les pièces qu'ils souhaitaient récupérer. C'est extrêmement simple. Il n'y a absolument pas eu de saccage. Il y a eu peut-être des choses ridicules, mais l'essentiel a été embarqué.
Ouais.
C'est pour ça que l'armée américaine n'est pas
gangster.
Et c'est pour ça que l'armée américaine n'est pas intervenue, puisqu'ils se sont réunis avant.
Je voudrais pas faire de l'antinazisme primaire, mais ça nous rappelle quand même des heures assez sombres. Nous sommes à mi-chemin, donc Victoria lit les messages tout au long, et quand vous êtes concerné, vous prenez des notes, vous ne l'interrompez pas, s'il vous plaît.
Alors, un auditeur nous citait la photographie du char américain sur laquelle est écrit « Today Bagdad, tomorrow Paris ». Sachant que la France possède des armes de destruction massive, demande-t-il, devons-nous prendre cette menace au sérieux ? Ne peut-on penser que les Américains font aujourd'hui à l'encontre de l'islam le travail que nous, Français, nous ne pouvons plus faire ? Un modérateur de l'Irak a été nommé. Il s'appelle Jay Garner. Il est président d'une des plus grosses sociétés d'armement américain et c'est lui le chef de l'Irak. Enfin, c'est lui qui va devenir le chef. Ah, je vais y arriver. Le chef de fait de l'Irak. Comment s'appelle l'opération d'hier à Mossoul ? Modératisation. Très bonne émission. Pouvez-vous nous parler de Sharon et de ses prises de position sur la situation au Proche-Orient ? Les autres revenaient, ça détourne un peu du sujet actuel.
Bien, alors on reprend le tour de table, galamment, avec Camille Gallic, directrice de Rivarol.
Justement, il y a un auditeur qui s'interroge sur la personnalité de Jay Garner. Alors, je lui conseillerais de lire le prochain numéro de Rivarol en date du 18 avril.
Dans tous les kiosques.
Parce qu'il y a, à peu près dans tous les kiosques, oui. Et il y a un portrait de Jay Garner, et notamment tous ses engagements avec le gouvernement israélien.
Serge de Beketch, du Libre Journal de la France Courtoise, avez-vous quelque chose à dire ?
Il y a une question qui m'a interpellé, comme on dit. C'est la question qui m'a quelque part interpellé, oui, c'est ça. Est-ce que les Américains font à l'égard de l'islam, c'est ça ?
Ce que nous ne pouvons plus faire.
Mais je voudrais bien qu'on me dise que nous avons à faire à l'égard de l'islam. Moi, je voudrais quand même que les choses soient bien claires. Je suis extrêmement. J'essaie de dire un mot qui ne va pas m'envoyer devant la 17e. Je ne suis pas très content de voir que l'islam se développe en France. Voilà. Je préférerais que se développe en France le bon vieux catholicisme qui a sa place dans notre pays parce qu'il est connaturel à la France. L'islam est connaturel aux pays arabes. L'islam chez les Arabes, je m'en fous radicalement. Je ne me sens pas du tout chargé, moi, d'aller éradiquer l'islam chez les Arabes.
Ni même la dictature, Serge.
Mais je m'en fous. Je me fous absolument de ce qui se passe chez les Arabes. Je m'en fous catégoriquement. Ce n'est pas du tout mon souci. Mon souci, c'est ce qui se passe en France. Aussi en Europe un petit peu. Mais d'abord en France. Alors, combattre l'islam... Combattre l'islamisation en France, légalement, oui, je veux bien. Le combattre chez les Arabes, je vois pas ce qu'on a à foutre là-bas, et je vois encore moins ce que les Américains ont à y foutre. Les seuls qui auraient quelque chose à faire chez les Arabes, c'est chez les islamistes, c'est des missionnaires qui iraient leur expliquer que vraiment ils se trompent de religion, que c'est pas la bonne religion. La seule bonne religion, c'est la religion catholique, voilà. Si les missionnaires veulent pas le faire, et d'ailleurs on les comprend quand on voit ce qui leur arrive à Tibérine, eh ben, c'est pas mon affaire à moi. Et c'est surtout pas l'affaire de nos soldats. C'est encore moins l'affaire, je dirais, des soldats américains, dont on se demande vraiment comment ils vont arriver à éradiquer l'islam à coups de canon et à coups de bombe, parce qu'on sait d'expérience longue que le martyr, c'est le meilleur engrais pour une religion. Donc, quand on nous dit que les Américains vont combattre l'islam, on se fout de la gueule du monde. Ils vont combattre personne. Ils vont fabriquer des fanatiques islamiques à la vitesse d'un cheval au galop. Chaque fois qu'ils en tuent 10, il y en a 1000 qui montent. Mais c'est une évidence aveuglante. Le christianisme s'est imposé en Europe par la mort de milliers de martyrs. Je vois pas pourquoi il se produirait pas la même chose avec les islamistes. Ça a commencé. Si on avait dit il y a quelques années qu'il y aurait des jeunes filles de 17 ans qui se mettaient des ceintures de dynamite pour aller se faire exploser dans des pizzerias à Tel Aviv, j'aurais dit vous êtes complètement dingue. Dans 20 ans ou dans 30 ans, les jeunes musulmanes, elles se baladeront en mini-jupe comme tout le monde. Et ben on voit le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où l'homme ou la femme, d'ailleurs, où l'être humain ne peut absolument plus supporter les persécutions, les pressions, le mépris, la haine sur son propre territoire. Alors, voilà.
Jean-Claude Varane, oui, National Hebdo.
C'est vrai ce que dit Serge. Mais malheureusement, en France, Sarkozy vient de prendre des dispositions vis-à-vis des islamiques qui maintenant vont avoir pratiquement un contre-gouvernement islamique en France.
Je n'ai pas dit le contraire une seule seconde. J'ai bien dit que ce que je disais, c'était pour les pays arabes, les pays de tradition musulmane. En France, moi, je considère que l'islam n'a rien à y faire. Je considère que
le gouvernement lui donne le pouvoir.
Malheureusement,
qu'il va falloir combattre.
Malheureusement, je ne suis pas le gouvernement. Mais il y a un détail à propos de Sarkozy qui est extraordinaire, c'est que Sarkozy, il vient de prendre une paire de claques qui est fantastique. Il a ourdi une opération complètement pourrave depuis le début, avec un truc qui aurait dû provoquer un cataclysme. Il a désigné le président d'un truc avant de faire élire les gens d'où allait sortir ce président. Résultat, les musulmans ne sont pas plus bêtes que d'autres. Ils ont dit à Sarkozy, bras d'honneur, c'est une pratique courante en terre d'islam. Ils leur ont dit, le résultat, c'est que au moment où la France est en relation particulière avec l'Algérie à cause de cette, j'allais dire un mot grossier, année de l'Algérie, on découvre que c'est le Maroc qui prend le pouvoir dans les instances musulmanes de France. En France. Donc, ils l'ont fait un bras d'honneur, et il est grotesque, Sarkozy. Il est grotesque. J'ajouterais, pour faire une parenthèse, puis après je me tais, qu'il est encore, son grotesque est encore plus, est encore augmenté par le fait que, en ce moment, on voit, les types se tirer des prisons en hélicoptère, alors qu'on nous avait promis que ça ne se produirait plus, etc., qu'on est infoutu de les arrêter ensuite. Et en revanche, il y a quelques jours, une réunion de M. Malek Boutik, le bien nommé responsable des SOS Racisme, a été troublée par des gamins identitaires qui ont jeté des boules de farine et des œufs sur M. Malek Boutik. Les gosses ont été arrêtés après une enquête éclair de la police et ils sont en prison. C'est-à-dire que on vide avec des hélicoptères les prisons des truands dangereux qui ont des morts sur la conscience et on les remplit de l'autre côté avec des gamins qui lancent des boules puantes et des sacs de farine. Si c'est ça la police de M. Sarkozy, ça m'étonne pas qu'ils réussissent aussi bien avec l'islam.
Bien, chers amis, je vous demande pardon Camille, mais nous allons finir le tour de table avec Emmanuel Ratier sur le sujet de l'Irak et sur les questions d'auditeurs qui viennent d'être posées. Ensuite de quoi, je demanderai à Victoria, si elle peut se préparer d'ici là, de donner une deuxième série de questions d'auditeurs. Et si vous en êtes d'accord, voilà 40 minutes que nous sommes dans les sables, nous allons revenir en France. C'est d'ailleurs ce que nous faisons depuis quelques minutes. Emmanuel Ratier, est-ce que vous voulez bien conclure sur le sujet de l'Irak et de la politique américaine?
Alors moi je vais essayer de parler à la fois de l'Irak et de la France, mettons. J'ai été intervenu il y a, je crois, à peu près 15 jours ou 3 semaines avec Claude Giraud, au début des attaques, et j'avais parlé de l'attitude très particulière de la presse française, qui a été extrêmement louée. Et j'avais dit qu'il ne fallait pas se faire d'illusions, parce qu'en réalité, par rapport, par exemple, à la première guerre du Golfe, la liberté de ton n'était pas plus importante. C'était que, tout simplement, les journalistes avaient reçu des consignes pour défendre les positions gouvernementales. C'est-à-dire que, puisque Jacques Chirac était, pour être très clair, puisque Jacques Chirac était contre le fait que les Américains fassent la guerre, eh bien, on a eu une presse unanime qui a dit, c'est très bien, on a soutenu Jacques Chirac, et on a eu, et les partisans des États-Unis ou d'une intervention n'ont pratiquement pas pu s'exprimer dans les journaux et dans les télévisions. Moi, ce que je note depuis la chute de Bagdad, mais pratiquement à la minute même où les Américains sont rentrés dans Bagdad, vous avez Monsieur Jacques Chirac qui a parlé de la dictature de Saddam Hussein, vous avez le ministre des Affaires étrangères, Monsieur de Villepin, qui avant dit, avait osé dire qu'il ne souhaitait pas la victoire des États-Unis, qui là s'en est réjoui. Et l'attitude de la presse a été extraordinaire, puisque depuis 3 semaines, ou mettons même depuis 3 mois, personne ne parlait à la télévision du dictateur Saddam Hussein. Les Américains entrent dans Bagdad et on a maintenant le dictateur, on nous ressort les prisons, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça montre une fois de plus que la presse et en particulier les médias audiovisuels sont totalement aux ordres.
Bonne conclusion sur ce sujet. Victoria, est-ce que vous êtes prête à donner quelques questions d'auditeurs ou vous voulez qu'on
reparte? Faites-moi un petit tour parce qu'encore, j'en ai un temps qui vient d'arriver.
Alors, on n'a pas parlé de Sharon.
On n'a pas répondu.
On n'a pas répondu sur Sharon. Moi, je crois que c'est finalement lui, d'une certaine façon, qui est le grand gagnant. En ce sens, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne dit rien, il laisse faire. Et que finalement, il ne faut pas non plus oublier que cette guerre des Américains était eux aussi pour une certaine protection d'Israël. Donc Sharon, à l'heure actuelle, eh bien, il est bien content de ce qui se passe. Et puis il attend, comme un gros matou.
La première intifada a été liquidée après la première guerre du Golfe. Et la deuxième intifada sera liquidée maintenant,
elle
juste
est
après.
Il y a eu
plus de 100 Palestiniens qui ont été tués au mois de mars.
Il fallait que ce fût dit. Alors nous avons déjà commencé à parler de, en revenant en France, à parler de Nicolas Sarkozy. J'aimerais bien...
Les messages que vous vouliez tout à l'heure, ça y est, ils sont triés.
Victoria. Alors encore une fois, on ne l'interrompt pas, s'il vous plaît, on note quand on est concerné par un message.
Alors si Bush fait la guerre, il a probablement raison. La Troisième Guerre mondiale aurait été gagnée facilement contre l'islam il y a 10 ans, ça sera difficile aujourd'hui et probablement très très difficile dans 10 ans. Parlez-nous plutôt du très haut niveau de corruption existant entre les dirigeants arabes et français, et ne devenez pas Radio Bagdad. Je reste perplexe, car vu l'état de déliquescence de la France, je préfère encore le joug américain que le joug islamique qui me terrifie. Qu'en pensez-vous, Serge de Bekech? Que Serge de Bekech arrête de tourner autour du pot. À travers vos propos, on sent percer l'inévitable complot juif.
Ah, un parano, là.
Qui a apporté en France les belles pièces archéologiques venant d'Égypte et qui sont au Louvre? Ce ne sont pas les Américains, tout de même. Je n'arrive pas à comprendre, de la part de nationaux, cet acharnement contre les USA. Je crois savoir que nous n'avons pas 6 millions d'Américains en France, mais 6 millions de musulmans. Il faut savoir où sont les vrais ennemis. Pourquoi une telle haine contre l'Amérique? Auriez-vous donc préféré que le peuple irakien continue à supporter les tortures en tout genre infligées par ce cher Saddam Hussein? Quant aux présentes victimes civiles de cette guerre, vous oubliez bien vite les 100 000 morts français du débarquement qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir vous exprimer.
Serge de Beketch, n'êtes-vous pas devenu parano? Savez-vous où se trouve le détroit d'Ormuz? Allez vous faire soigner. Je vous aime bien, monsieur de Beketch. Je vous aime bien. Mais je pense, au lieu de critiquer la politique américaine, il vaudrait mieux parler de la politique française qui nous arrive, qui nous amène à avoir maintenant 6 millions de musulmans en France, 8 dans 5 ou 10 ans, etc., alors que la culture qu'ils nous imposent est à l'opposé de notre culture occidentale. À mon avis, le pétrole n'est qu'un simple butin de guerre, mais pas son motif. Il ne faut jamais oublier que Bush est un néo-païen sataniste, voire du côté des schools, un Skull and Bones. Les puritains sont venus à la cour d'Angleterre avec Jacques Ier Stuart. C'étaient de véritables ayatollahs, et c'est pour cette raison que les anglicans les ont rejetés. Les passagers du Mayflower étaient ces gens-là. Ils ont la haine de l'Europe. Il n'y a pas qu'au Metropolitan Museum ou au British Museum qu'il y a des reliques égyptiennes et arabes, au Louvre aussi.
Il y a les taureaux de Port Said.
Quel que soit le dramatique nombre de milliers de victimes à côté du million d'Irakiens, ça y est, c'est le million, tués par Saddam Hussein, je vous laisse faire la différence. Israël se leurre quand la Bible fait état du grand Israël. Ce n'est pas sur terre qu'il faut le voir, mais aux cieux.
Bien, alors nous avons... je vais vous donner la parole à l'instant, Serge.
Je voudrais simplement dire que le problème de lecture est lié à une question d'écriture, parce que on pourrait croire que les auditeurs envoient des messages qui sont incompréhensibles. C'est pas ça du tout. C'est qu'ils sont écrits tellement vite que parfois, il est difficile de les déchiffrer. Donc,
Victoria a lu...
C'est important de le dire.
Elle ne marque pas. Elle devrait peut-être marquer le passage d'un message à l'autre, parce qu'elle a un peu tendance à lire à la suite. Mais donc j'indique que nous avons lu là, il me semble, près d'une trentaine de messages différents. Alors si vous êtes d'accord, et même si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, il n'est pas possible de faire autrement parce que nous avons passé les trois quarts d'heure et je voudrais quand même qu'on traite d'autres sujets. Je vais donner un droit de réponse à Serge de Beketch sur ces messages qui l'interpellent personnellement d'ailleurs en grand nombre, qui vont dans le même sens en grand nombre, qui posent fréquemment la même question. Donc Serge, je conclue définitivement en deux ou trois minutes sur ce sujet, puis nous revenons en France à Sarkozy, à Le Floch-Prigent et à Ferry pour 10 minutes.
En deux mots, je suis parfaitement conscient depuis très longtemps qu'il y a un énorme problème d'immigration arabo-musulmane en France. Je l'ai écrit, j'ai d'ailleurs été condamné 20 fois pour ça. Je l'ai écrit dans Minute, dans National Hebdo, dans Libre Journal, mais je voudrais qu'on m'explique calmement et posément et intelligemment en quoi le fait d'aller casser la gueule aux Arabes en Irak va régler le problème de la présence arabo-musulmane en France. Voilà, c'est tout.
Merci Serge d'avoir été aussi bref. Donc il nous reste à peu près 12 minutes et je pense que c'est le temps d'un tour de table sur les questions nationales. Alors, on parlait de Sarkozy et de ses activités de ministre du culte. Moi je voudrais que vous nous disiez chacun à votre tour un mot également de ses activités de militant contre la double peine, que j'ai du mal à digérer de la part de Sarko le terrible. Je voudrais que vous disiez un mot de la façon dont l'État, c'est-à-dire nous avec nos impôts, devons financer le divorce de M. Le Floch-Prigent à hauteur de 9 millions d'euros, je crois. Et un mot également du fameux écrivain M. Ferry, qui fait acheter 15 euros pièce, c'est-à-dire le prix courant de vente au public d'un livre par son ministère aux éditions Odile Jacob, son prochain bouquin, pour le distribuer donc à 800 000 exemplaires en France gratuitement, enfin gratuitement pour les enseignants qui vont le recevoir, mais au prix de 15 euros pièce multiplié par 800 000 pour les contribuables français. Alors nous reprenons, ce sera sans doute le dernier tour de table, et nous commençons par Camille Gallic, directrice de Rivarol.
Écoutez, Sarkozy fait son métier de ministre de Chirac. C'est tout. Moi, j'ai rien à dire sur Sarkozy. Sarkozy n'a absolument aucun intérêt. Il fait ce que lui dit de faire Chirac. Ça vous étonne que Chirac soit contre la double peine?
Ben, c'est de l'autodéfense, en quelque sorte.
Ben, oui, il me semble. Enfin, mais de toute manière, on savait ceux qui ont voté sur... Pour Chirac, ne pouvait pas ignorer que c'était un homme de gauche. Il ne l'a jamais dissimulé. Je voudrais quand même, puisque Serge a parlé de ses procès qu'il a eu justement pour avoir attaqué l'islam, et je suis dans le même cas, j'ai eu nombre de procès pour avoir dénoncé la mainmise de l'islam et la montée de l'islam. Nous avons même eu un procès pour un dessin de char qui montrait des jeunes après le ramadan et qui disait « un mois de jeûne, ça vous donne une de ces pêches ». Nous avons été condamnés uniquement pour cela. Mais Serge, vous en serez témoin, c'est sous des gouvernements dits de droite que nous avons eu la plus grande avalanche de procès.
Toujours.
Et d'autre part, je voudrais quand même revenir à l'auditeur qui dit « vous devriez vous battre contre, c'est ici qu'il faut se battre contre l'islam ». J'en suis tout à fait d'accord. Mais quelle aurait été l'attitude des États-Unis, par exemple, et de ses relais européens, si la France avait déclaré la guerre à l'islam? N'aurions-nous pas été condamnés à l'ONU? N'y aurait-il pas eu des mesures contre nous? Je rappelle tout de même que le plus fidèle allié de M. Bush, qui est M. Blair, ça fait 8 ans qu'il refusait d'extrader l'un des chefs terroristes responsables des attentats de Saint-Michel. Il n'est toujours pas extradé, et finalement une des cours britanniques a décidé que ça serait possible de l'extrader, mais il ne faudra pas l'attendre avant 5 ou 6 ans parce qu'il y a tous les recours. Donc que cet auditeur sache que même si nous voulions nous battre contre l'islam, si un gouvernement changeait et que ce gouvernement décida de se battre corps et âme contre la montée de l'islam en France, les Américains et leurs relais et tous ceux qui soutiennent actuellement les Américains, c'est-à-dire M. Kouchner, M. Lelouch, qui vient de faire une nouvelle loi, justement, pour nous condamner plus lourdement, si nous attaquions l'islam, se déchaîneraient contre ce gouvernement.
Merci Camille. Alors, vous, Jean-Claude Varane et National Hebdo, est-ce que vous êtes étonné de voir Sarkozy faire la politique de Chirac?
Oui, moi je crois que M. Sarkozy est en train de nous mener en bateau et qu'il y a quand même, il prétend que l'insécurité a diminué. D'une certaine façon, la petite insécurité a diminué, mais la criminalité a augmenté. Maintenant, pour un rien, on tue. Voilà ce que je voulais dire sur M. Sarkozy. Sur M. Le Floch, c'est un système de haine qui dure depuis le général de Gaulle. Or, je ne ferai pas de commentaires. Effectivement, c'est assez risible que l'État paye un divorce. Mais l'institution ELF, elle date du temps...
Mieux qu'il paye un mariage.
Et maintenant, ce qui sera peut-être intéressant dans l'avenir, c'est ce fameux livre de M. Ferry et comment il voit la nouvelle éducation nationale. Est-ce qu'il va favoriser les enseignants? Est-ce qu'il va pénaliser les étudiants? Est-ce qu'il va pénaliser les parents? Je crois que c'est quand même très important. À chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale, il veut refaire le mammouth. Voilà les trois sur les trois personnages.
Merci Jean-Claude. Emmanuel Ratier sur la politique française et l'actualité en France.
Ben, sur la politique française, je dirais qu'il y a un poids qu'il faut aborder très rapidement, à mon avis, qui est la très forte dégradation de l'économie, l'impossibilité absolue du gouvernement de tenir les promesses électorales de l'année dernière, les leurres qui sont offerts au public pour éviter que les Français ne se rendent compte qu'on est rentré dans une récession extrêmement dure qui ne fait que commencer. On va certainement payer une partie des pots cassés avec les États-Unis, qui eux-mêmes ont des problèmes et donc vont favoriser les États-Unis avant de s'intéresser, donc bloquer les exportations françaises. Et on parle déjà à mots couverts d'une augmentation de la CSG, du remboursement plus tardif du CRDS, donc qui permettrait de le continuer de le ponctionner sur les gens. Et on s'oriente, je pense qu'on pourra très certainement dans un mois ou deux mois, dans un prochain club de la presse, je pense que le thème central sera la crise économique en France, que tout le monde ici peut prévoir. J'en ai parlé là il y a quelques mois, où j'avais dit la meilleure courbe pour savoir ce que sera l'économie, c'est la courbe du papier carton. Parce que c'est les emballages, et c'est bête, mais moi j'ai aucune erreur depuis 50 ans là-dessus. La courbe du papier carton... les industriels commandent des emballages, et donc parce qu'en fait ils ont une approximation de ce qu'ils vendront dans 3 mois. Bon. Si la courbe du papier carton baisse, et d'ailleurs c'est un produit spéculatif, en fait c'est si le prix du carton baisse, ça veut dire qu'il y a peu de demande. Bon, bah, le prix du carton baisse depuis la fin de l'année dernière.
Il faudra imprimer beaucoup d'ordres sur du carton.
Et il faut surtout changer le proverbe, quand le bâtiment va, tout va. Non, maintenant c'est quand le papier carton va, tout va. Serge de Becketch, vous avez 2 minutes, puisque nous terminons à 19h ce clan de la presse, et que je voudrais bien entendu que les responsables de cette presse puissent présenter leur journal et faire des offres mirobolantes à nos auditeurs qui souhaitent les découvrir.
Je voudrais rapprocher deux faits pour terminer, deux faits d'actualité franco-française qui me paraissent résumer parfaitement l'état de la politique française, de l'opinion publique française, de la réalité quotidienne de la France. Le même jour, Jean-Marie Le Pen a une fois de plus été pris au collet par la racaille politicienne à propos de l'affaire de Mantes-la-Jolie. Alors, je signale que la semaine prochaine, je recevrai à ce micro, si Dieu veut, un témoin qui n'a jamais pu parler, pour des raisons que j'expliquerai la semaine prochaine, qui n'a jamais pu dire ce qu'il a vu. Il a été présent, il a assisté à toute la scène à Mantes-la-Jolie, et sa situation lui a interdit de parler. La semaine prochaine, il va enfin parler, et il va dire tout ce qu'il a vu de cette prétendue agression contre la madame Pelvast Bergal.
Annette.
Donc
à qui ça a valu son mandat de députée, d'ailleurs elle n'aurait jamais été licenciée,
elle serait restée probablement ce qu'elle était avant, c'est-à-dire bon, pas députée. Donc Jean-Marie Le Pen vient d'être pris au collet de nouveau par la racaille politicienne à cause de cette histoire et privé de son mandat de député européen. Le même jour exactement, M. Carignan, condamné à 48 mois de prison pour corruption active et qui a purgé simplement la moitié de cette peine, a été réélu président de l'UMP de l'Isère. Alors l'UMP, je le signale aux gens qui ne seraient pas attentifs, c'est le parti du président de la République. Vous me direz que nommer un corrompu à la tête de la direction locale d'un parti qui est dirigé par M. Chirac, c'est quand même, on peut dire que c'est moindre mal, hein. Ça fait partie du jeu. Mais, chose extraordinaire, M. Carignan doit aujourd'hui encore au minimum 125 000 euros aux contribuables français qu'il leur a volé par l'intermédiaire de M. Pacari, organisateur d'affaires pourraves, s'est fait verser indûment par le Conseil régional de l'Isère 253 000 euros et qui en a ristourné 125 000, selon ses propres dires, à M. Carignan. Voilà dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. J'ajoute que M. Carignan a monté une affaire de conseil. On sait très bien ce que c'est que le conseil politique aux entreprises. Il a monté une affaire de conseil politique aux entreprises qu'il dirige depuis le Maroc où il s'est retiré. Alors, on vit aujourd'hui dans un pays où un homme politique français peut être, sur des faux témoignages, déchu de son mandat, mais où un politicien véreux peut retrouver un poste de responsabilité dans le parti qui dirige la France, la politique française, la justice française, la police française, l'administration française, qui dirige toute la France, qui prend toutes les décisions relatives à l'avenir de la France. Un homme de cette envergure-là, un homme de cet acabit-là, peut être élu à la tête d'une section locale, d'une section départementale de ce parti. Et on vient nous parler de démocratie. le même jour où, je le répète, M. Sarkozy fait nommer président du Conseil des musulmans de France un type qui représente même pas 6% des électeurs musulmans qui n'ont d'ailleurs pas de titre à voter. Voilà, on vient nous raconter après qu'on est en démocratie et que moi je suis pas démocrate, mais vraiment c'est à se taper le derrière contre la suspension. Alors la question que je pose à mes auditeurs et à nos auditeurs, c'est jusqu'à quand allez-vous supporter ça? Jusqu'à quand?
Voilà. Merci Serge. Alors Victoria, s'il s'agit de l'Irak, c'est terminé. Nous avons clos le chapitre et nous n'avons plus qu'une minute.
Vous avez parlé du livre de Luc Ferry. Quel en est son contenu? Nous demande cet auditeur. Et l'autre,
un autre
auditeur. Comment pouvez-vous accepter que M. Ferry soit nommé écrivain alors qu'il n'a pas écrit ce livre qui n'est qu'un catalogue guidé abracadabrantesque? Et puis, pensez-vous que l'ex-femme de Le Floch-Prigent sera condamnée pour chantage et devra rembourser ce qu'elle a touché? Voilà. Et puis on vous pose des questions sur des livres qui viennent de paraître. Les membres du clan de la presse ont-ils lu la stupéfiante biographie de Jean Edernalier qui vient de paraître?
Non, j'ai vu qu'il était d'ailleurs l'idole de Marine Le Pen, qui a fait une déclaration récemment en disant que l'homme qu'il avait plus marqué, c'était Jean Edernalier.
Et puis,
donc ça doit être quelqu'un de très bien.
Avez-vous lu le livre d'Alain Soral, L'abécédaire de la bêtise ambiante?
Socrate à Saint-Tropez, ça s'appelle.
C'est
le sous-titre.
C'est vieux?
Non, Socrate à Saint-Tropez vient de sortir, c'est un ouvrage remarquable.
Et à noter que pour lui...
Il va avoir des emmerdements, le pauvre Soral.
À noter que pour lui, le nationalisme du Front National correspondrait au mieux, dans les pays du Maghreb, à un centrisme de gauche.
Tout le livre est comme ça, c'est un régal.
Bien. Et en plus, c'est très bien.
Et puis aussi, pourriez-vous nous parler un jour de l'ouvrage « Les oubliés de la guerre d'Algérie » par Raphaël Delta?
Bien, merci Victoria, tout ça est noté.
Et puis, vous me permettez...
Oui, très rapidement, s'il vous plaît.
Retour sur l'Irak pour une conclusion. Pourquoi ne dites-vous pas que Bush a fait le lit de l'islam contre les chrétiens en Serbie et au Kosovo? Vous parlez politique, armement, etc., mais vous oubliez l'essentiel, priez Dieu.
Merci, ça y est, il est 19h, alors en toute hâte, Camille Gallic, si je n'ai jamais lu Rivarol, à part l'acheter dans les kiosques, qu'est-ce que je peux faire?
D'abord l'acheter dans les kiosques, mais nous pouvons, il suffit de nous téléphoner au 01 53 34 97 97 ou par internet rivarol.com. Et nous enverrons un exemplaire de spécimen du journal ou de notre revue Écrite Paris. Et je voudrais annoncer que nous avons reçu à nouveau 1000 exemplaires de la France métisse de Char qui avait été épuisée en 4 mois.
J'en suis très heureux, c'est un livre de
5 euros.
Merci. Jean-Claude Varane.
Oui, National Hebdo. Je voudrais quand même signaler aux auditeurs que le week-end prochain, il y aura quand même un grand événement politique du Front...
Continuez, Jean-Claude. On va demander. Ce monsieur va arrêter de parler en régie avec la porte grande ouverte. Continuez, ne vous laissez pas déconcerter.
Non, je ne vais pas me laisser déconcerter. Oui, grand événement quand même politique en France, puisque le Front National aura 30 ans le week-end prochain et qu'il y aura son congrès à Nice. Et puis, le Front National fait aussi son défilé du 1er mai. National Hebdo, vous le trouvez dans les kiosques. Pour tout renseignement, vous téléphonez au 01 41 12 04 14. Il vous sera envoyé un ou deux numéros pour pouvoir le consulter. Il est en vente dans les kiosques, malheureusement un petit peu comme Rivarol, pas partout. Et nous le regrettons l'un et l'autre.
Merci Jean-Claude. Emmanuel Ratier.
Donc, Fait et Documents n'est en vente que par abonnement. BP 254 75 424 Paris CEDEC 09. Et on peut me contacter également sur mon site internet qui est faitetdocuments.com. J'enverrai un exemplaire aux personnes qui voudront bien m'écrire.
Merci Emmanuel. Donc maintenant, Serge, nous ne parlons pas du Libre Journal et des offres mirobolantes.
Je voudrais recevoir les invités. Je voudrais reprendre d'abord ma casquette de directeur d'émission parce que heureusement que c'est la semaine sainte. Hein.
Au chiotte l'arbitre.
Non. On recommence le mois prochain. Merci à tous. Mais je parlerai du Libre Journal en début de deuxième partie. Voilà, nous allons faire un petit mouvement de chaise musicale. Est-ce qu'on a de la musique pour accompagner? Merci Franck. je reprends ma casquette. Merci Patrick d'avoir arbitré ce débat. Alors, je vais quand même placer la flèche du part. Il y a un auditeur qui a envoyé un message en disant « Mais l'arbitre, il parle trop. »
Au sujet de l'arbitre, on
voilà,
est
bien d'accord. Mais c'est pas mon opinion, c'est l'opinion de l'auditeur. Je le dis. Un autre auditeur, d'ailleurs, a dit « Non, c'est formidable. C'est très très bien. Enfin, tout le monde parle à son tour et on se comprend. » Donc voilà, comme d'habitude, 50-50.
Et puis surtout, il s'est amélioré en fin de programme.
Qui ?
Monsieur
Goffman.
Goffman,
il
oui.
est très bien, Goffman.
Au début, voilà. Vous l'avez pris comme ça, au dépourvu. Alors vous l'avez étranglé,
normal,
malheureux, il a fait
c'est
ce qu'il
comme
a
ça,
pu.
C'est...
Mais après, il était très bien.
C'est comme le trapèze. Vous n'êtes pas fâché, Patrick ?
Ah non, au contraire, je suis ravi.
C'est pour montrer
merci, patron.
Pour montrer ce qu'il est capable de faire. Bien, je reçois maintenant... deux invités que j'ai déjà reçus brièvement. Vous êtes venu quand d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur ? La première fois que vous êtes venu, parce que je vais vous faire un aveu, je n'ai pas retrouvé votre fiche dans mon classement qui est pourtant absolument impeccable, vous l'imaginez. J'aimerais bien savoir à quelle date vous êtes venu pour la première fois.
C'était il y a un mois, plus d'un mois.
Nous n'étions pas chez vous, on était chez Gérard Marin. Et c'est parce que vous nous avez vus chez Gérard Marin que vous nous avez embauchés.
Bien sûr. Alors je pique les invités. Je me disais, c'est que j'avais le souvenir qu'on avait fait une émission ensemble, mais c'était l'émission de l'excellente émission du formidable Gérard Marin, dont je vais recevoir un autre ami.
Et nous fêtions votre jubilé.
La semaine prochaine.
J'ai une idée, Serge, si on donnait le nom de monsieur l'ambassadeur, les auditeurs nous diraient voilà. Quand et comment c'est... il est passé.
Non mais ça y est, il a donné la réponse. C'est dans l'émission de Gérard Marin. Alors, monsieur l'ambassadeur Smithson-Dong et monsieur Hanzo sont... Alors, monsieur Hanzo est vice-président de La Voix des Français, qui est une association que nous connaissons bien maintenant, puisqu'il y a déjà un certain temps qu'elle est active. Et monsieur l'ambassadeur, vous êtes... est-ce que vous avez un titre dans cette association ? Est-ce que vous êtes...
Je suis membre dans le comité d'honneur. Ce qui m'a fait...
beaucoup d'honneur.
Beaucoup d'honneur. C'est une voix néerlandaise qui s'ajoute aux voix françaises.
Oui. Alors, je vous ai demandé de revenir parce que j'avais été frappé, effectivement, lors de l'émission de Gérard Marin, par le fait que... j'ose dire pour la première fois, la question de l'immigration était... vous abordiez la question de l'immigration sous un angle, non pas polémique, mais de technique politique. C'est-à-dire comment faire un travail de lobbying, disons le mot, puisque aux États-Unis est accepté. Et puis après tout, on va faire un peu de pro-américanisme, on vient de faire une heure d'anti-américanisme, on va changer. Comment ce travail de lobbying pouvait-il être exécuté en France ? Alors, donc... une des activités de La Voix des Français, c'est pas la seule, c'est une des activités que vous avez prise en main, monsieur Hanzo, c'est la question de l'immigration. Et vous avez donc entrepris de faire du lobbying auprès de diverses institutions très importantes, européennes, françaises, sur cette question. Alors, ce que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, c'est d'abord comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire quelles sont les institutions auxquelles vous vous êtes adressé et par quels moyens vous leur avez fait prendre conscience de l'existence du problème, parce qu'il semblerait qu'elles ne soient pas vraiment conscientes, ou de la nécessité pour les Français, de l'exigence des Français d'avoir une solution rapide et correcte.
Je vous remercie, Monsieur Beketch. D'abord, une précision en ce qui concerne l'association. Vous savez que tout évolue dans la vie. La petite équipe donc opérationnelle avec des gens de très haut niveau comme monsieur l'ambassadeur est constituée en fait d'une dizaine de personnes ayant une grande expérience internationale. Cette petite équipe continue mais en dehors de l'association avec laquelle nous venons de prendre nos distances pour des raisons internes. Donc nous continuons de la même façon et l'exposé que je vais vous faire n'est en aucun cas altéré. Vous avez raison de dire que nous sommes remarquables en le fait que nous nous distinguons d'énormément d'associations que nous voyons autour de nous qui sont très fortes pour parler. Nous sommes un pays où on parle, on fait des colloques, on fait des papiers, on fait des défilés même, c'est très bien. Il faut parler, je ne doute pas que ce soit nécessaire. Mais depuis longtemps, avec cette équipe de très haut niveau... nous avons décidé de faire autre chose, ce que font très bien les anglo-saxons, c'est-à-dire être groupe de pression, groupe de lobbying. C'est un travail de professionnel, c'est un travail difficile, ardu, très long, et je vais vous en donner quelques aspects. Nous considérons effectivement que la maîtrise des flux migratoires doit être prise enfin de façon positive, c'est-à-dire qu'il faut lier maîtrise migratoire autrement que par une politique de visa ou de renvoi par charter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'on peut aussi le prendre en amont en veillant au développement nord-sud, en faisant en sorte que les gens qui n'ont plus rien à perdre dans leur pays quittent leur pays au risque de leur vie, traversant l'étroit de Gibraltar dans des barquettes. Il y a 50% de personnes qui laissent leur vie. C'est en prenant le problème en amont, c'est-à-dire en liant la maîtrise migratoire par une concertation avec les États des pays d'immigration au niveau de la France ou au niveau de l'Union européenne, une concertation pour une coopération nord-sud. Les gens du Sénégal, du Maghreb, etc., doivent être maintenus ou doivent avoir la capacité d'être maintenus chez eux pour éviter les déracinements culturels, pour éviter les dérives de violence que nous connaissons, puisque nous les importons maintenant, voire un peu ouvrons le journal et voyons comment ça se passe. Donc cette idée, cette grande idée positive, nous essayons de la porter aux endroits de décision. Et voilà la grande différence avec ceux qui parlent. Et je vais me borner simplement à une liste un peu sèche, mais qui est parlante. Monsieur l'ambassadeur, vous m'interromprez chaque fois que nécessaire, puisque ces actions, ces contacts, nous avons souvent pris ensemble. Au niveau de la Commission européenne, à Bruxelles, d'abord, il faut savoir que nos parlements, pour 80% de leur activité, sont maintenant contrôlés, endigués par les directives de la Commission de Bruxelles. Par conséquent, c'est à la Commission de Bruxelles et à la Direction générale adéquate qu'il faut s'adresser pour faire pression sous forme de propositions. Nous formulons des propositions. Donc, nous avons, depuis plusieurs années, entamer des contacts réguliers avec la direction Justice et Affaires intérieures, qui, comme son nom ne l'indique pas, s'occupe d'immigration.
Ça doit être pour tromper l'ennemi, probablement.
Voilà. Nous sommes occupés en fournissant des documents qui ont été appréciés. Hein. Au niveau des techniciens, nous sommes appréciés, c'est-à-dire que les gens nous ont écrit en disant « C'est intéressant, continuez, vous êtes la société civile, vous êtes la société civile !»
Mais vous fournissez des informations ou des avis ?
Nous formulons surtout des avis. D'où viennent ces avis ? Mais de notre expérience professionnelle, et voilà la grande différence avec ceux qui causent. Monsieur l'ambassadeur vous en dira dans un instant quelques mots. Il connaît les pays en développement. Je crois que vous connaissez parfaitement la Turquie, monsieur l'ambassadeur.
J'y étais 5 ans et j'ai exploré dans les régions orientales, occidentales, ceux qui sont occidentalisés et ceux qui sont restés comme il y avait quelques siècles. Oui.
Donc,
par exemple.
Le problème du développement.
Ne serait-ce que ça, pardon de vous couper, monsieur Anzo, mais
oui.
Ne serait-ce que ce membre de phrase que vient de prononcer monsieur l'ambassadeur. Ça ouvre des horizons qui, pour nous, sont inconnus. Il dit, je vais visiter des lieux qui sont occidentalisés et ceux qui sont encore comme ils étaient il y a des siècles. Ce qui est bien qu'on découvre d'un mot, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la Turquie, contrairement à la France, c'est pas un endroit où tout le monde a l'électricité, le gaz, le téléphone et Internet. C'est aussi un endroit où c'est un pays où voisinent des hommes du XXe siècle et des hommes du XVIIIe ou du XVIIe.
D'ailleurs, dans les quelques minutes que vous voulez bien nous accorder, dès que j'aurai terminé cette liste, monsieur l'ambassadeur parlera plus précisément du problème d'un pays en voie de développement qu'il connaît bien, la Turquie. Donc moi-même, je suis un ingénieur d'affaires de SPI Batignolle, et qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans? J'ai monté des usines dans ces pays-là. Ça signifie que j'ai eu à résoudre des problèmes socio-économiques, à discuter avec des décideurs, avec des investisseurs locaux. J'ai discuté de transfert de technologie, j'ai discuté de rentabilité d'investissement, j'ai discuté d'emploi. Autrement dit, les 10 personnes qui travaillent avec nous savent de quoi ils parlent, puisque nous sommes des représentants de la société civile qui agissons dans ces pays-là.
Pardonnez-moi de vous poser une question personnelle, mais vous dites, je suis ingénieur Spi-Batignolles. Spi-Batignolles, sauf erreur de ma part, ça a été une des grandes pompes à immigration en France, non?
Effectivement, nous utilisons dans notre activité de travaux publics un grand nombre d'ouvriers du Maghreb. Mais le Spi-Batignolles, qui est fort de 35 000 personnes, fait les deux tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger, notamment dans les pays en voie de développement. C'était surtout vrai il y a 10 ans. Maintenant, en fonction des difficultés que le tiers-monde pose à ceux qui veulent faire des affaires, nous nous sommes surtout reconvertis vers des pays plus solvables et plus développés. Mais quand j'y étais et opérationnel, nous avions les deux tiers de notre activité hors de France et essentiellement dans les pays en voie de développement.
Mais ça, c'est important de le dire aussi, parce que c'est le cœur du problème, vous voyez. On reçoit des immigrés de pays du Maghreb qui sont nos clients, les clients des entreprises qui, chez nous, utilisent les immigrés qui viennent de chez eux, et qui sont nos clients avec de l'argent que nous leur donnons au titre de l'aide aux pays en voie de développement. Ça fait quand même un
micmac
assez compliqué.
Vous avez tout compris. C'est pas un hasard si la Commission européenne nous envoie des lettres en disant « C'est intéressant ce que vous nous apportez comme éclairage. Nous, nous sommes des fonctionnaires. Vous, vous êtes des praticiens de ces pays-là. Donc, vos études sur le droit au développement durable, l'utilisation de l'épargne des migrants, je cite au passage, je crois qu'on aura l'occasion de se revoir, vous voulez bien,
oui, on a prévu une autre émission pour rentrer dans le détail. Là, c'est un exposé rapide.
Bon, le problème de la mobilité des cerveaux et du pompage des élites. On est fous actuellement, on pompe leurs élites avec le système actuel. Et l'assistance aux pays tiers sous forme de co-développement, et notamment du programme MEDA, que vous connaissez, puisque vous savez que depuis la conférence de Barcelone, il y a actuellement un dialogue auquel on veut bien participer, nous participons modestement, un dialogue entre les 5 pays du Nord de la Méditerranée qui font partie de l'Union européenne et les 5 pays du Sud qui en font partie. Ce dialogue MEDA raisonne secteur privé, raisonne investissement, raisonne formation professionnelle, système de technologie, et nous nous occupons de formuler des propositions sur ce programme MEDA. Voilà le genre d'action que nous menons. Auprès du gouvernement français, Monsieur Beketch, certainement grâce à votre carte de visite, Monsieur l'ambassadeur, le fait que nous nous présentons avec un ambassadeur, un grand ambassadeur de très haut niveau, vous avez été ambassadeur dans des très grands pays, je crois à Pékin.
Chine, oui. Et puis ici à Paris, auprès de l'OCDE, et puis pas ambassadeur, mais en fonction dans beaucoup
des Pays-Bas.
Les Pays-Bas, oui.
Donc, Monsieur Schmidt-Sendonck est d'une modestie gênante. Il faut presque attendre de bien le connaître pour savoir la très haute importance et les très hauts postes qu'il a eus. Par conséquent, nous avons été reçus à la présidence de la République, on a été bien reçus, la cellule Afrique de M. Raffarin. Auprès du Premier ministre, nous avons été également reçus. Au ministère de l'Intérieur...
Je crois que vous avez fait un lapsus qui me paraît un lapsus... un lapsus presque prémonitoire, je ne sais pas. Vous avez dit à l'Élysée, à la cellule Afrique de M. Raffarin.
Oui, oui.
Vous avez au moins 4 ans d'avance sur l'actualité, non?
Oui, il y a une cellule Afrique.
Mais pas de Raffarin.
Monsieur Raffarin
a une cellule Afrique
à délégué Affaires internationales. Il a un cabinet.
De Varenne, n'est-ce pas?
C'est ça. Et il nous a reçus en nous annonçant d'ailleurs quelque chose qui ne s'est jamais produit, mais c'est ça la politique. Il était question de nommer un monsieur coopération Nord-Sud en novembre dernier, dont on n'a jamais entendu parler. Mais enfin, l'essentiel, c'est que nous ayons été reçus et reconnus et reconnus. Au ministère de la coopération, nous avons été sollicités par le ministère de la coopération pour faire une étude. Ce qui est un honneur pour nous, sur le thème suivant, mobilisation des épargnes des travailleurs étrangers en France.
Qu'est-ce que ça veut dire, mobilisation des épargnes?
Bon, c'est-à-dire... Je fais une petite incident.
On la pique ou on...
En fait, rien que ça pourra faire l'objet de notre prochain entretien. Oui. Sachez, M. Beketch, que nous avons eu l'honneur devoir transformer en proposition de loi nos propositions au ministère de la Coopération. C'est-à-dire que nous avons imaginé que dorénavant, le migrant venant ici à titre temporaire aurait l'occasion d'épargner pour développer un projet chez lui au retour. Vous n'imaginez pas, dans les contacts que nous avons, car nous avons des contacts avec les migrants, le nombre de gens qui nous disent « Mais j'aimerais bien rentrer chez moi. Ma femme voudrait retrouver ses cousines. Mes enfants voudraient retrouver leurs grands-parents. Je ne peux pas rentrer. Quel projet puis-je avoir? Là-bas, je serai en chômage. Ici, je suis aussi en chômage. Mais la France... donne un statut particulier au chômeur. Je suis riche en tant que chômeur en France. Je ne peux pas rentrer chez moi. Eh bien, avec la mobilisation des épargnes sous forme de proposition de loi qui a été reprise par M. Godefroy, ancien ministre de la Coopération, c'est officiel, nos propositions visent à mobiliser cette épargne, verser au retour en monnaie locale, dans le pays d'origine, avec des crédits préférentiels associés à l'épargne. C'est un petit peu le principe du plan épargne-logement, voyez-vous. Vous épargnez, et plus vous épargnez, plus la banque vous donne à taux préférentiel un crédit complémentaire. Nous avons imaginé que cette formule pourrait être adaptée au projet de développement des gens qui rentrent. Qu'en pensez-vous? Vous vous souvenez, monsieur?
Oui, certainement, certainement. Et c'est une idée qui... a été proposé déjà au passé, par exemple pour ce qui concerne la Turquie, l'Allemagne et aussi les Pays-Bas ont proposé de aider les travailleurs turcs quand ils veulent faire retour. Je dois dire que les propositions que nous avons lancées, proposées au gouvernement turc, n'ont pas été accueillies avec beaucoup d'empressement. Mais ça reste une chose à faire, surtout pour les pays qui le veulent, le Maroc, le Maghreb, etc.
Ça me rappelle, cette disposition me rappelle un détail de l'histoire qui ne vous a certainement pas échappé. En 62, quand les Français d'Algérie ont été priés de choisir entre la valise et le cercueil, parmi ceux qui ont choisi la valise, il y en avait beaucoup qui avaient acheté des maisons dans les départements français d'Algérie, et des appartements, et qui s'étaient donc endettés auprès du crédit foncier. Et quand ils sont rentrés en France, après avoir été chassés d'Algérie et avoir tout perdu, bien entendu, ils ont cru qu'ils étaient exonérés du remboursement de ces dettes par un moratoire, ce qui est classique dans les cas de guerre. Or, c'était pas une guerre, c'était une situation de maintien de l'ordre. Et par conséquent, on leur a dit que s'il fallait qu'ils remboursent. Et donc, les rapatriés ont continué à payer en France les mensualités de remboursement du crédit pour des maisons qui leur avaient été volées en Algérie. Et quand le remboursement a été terminé, c'est quand même intéressant à savoir, quand tout ça a été terminé, enfin, des dispositions légales ont été prises pour qu'on puisse appeler la guerre d'Algérie une guerre, c'est-à-dire à ce moment-là, avec les qualifications de moratoire nécessaires pour éviter le remboursement des dettes souscrites par les habitants.
C'est surréaliste.
C'est surréaliste, oui, c'est surréaliste. Voilà. Monsieur l'ambassadeur.
C'est aussi très important d'assortir l'aide dans les épargnes avec une formation, parce que sans formation, les travailleurs qui font retour gaspillent ou font le même projet et donc se concurrencient entre eux. Tous prennent un taxi ou tous achètent des terrains. Il faut les guider un peu dans leur métier nouveau.
On pouvait quand même penser que depuis 50 ans d'indépendance, le travail avait été fait par les élites locales. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, les autres activités...
Je vais simplement donner les têtes de chapitre parce que j'aimerais qu'en deuxième partie, M. l'ambassadeur nous parle de la Turquie et de la manifestation que nous allons mené le 26 avril. Donc les têtes de chapitre, ce sont les contacts avec la Commission européenne, je l'ai dit, le gouvernement français au niveau le plus élevé, le Parlement européen, le Parlement français, le clergé.
Ouais, c'est intéressant. Ça.
Nous avons des contacts, la prochaine fois je pourrai vous en donner des détails. Le clergé, contrairement est très favorable à notre approche qui est positive. Vous avez bien vu que quand on parle d'immigration, on est très loin du genre tous à la mer. Au contraire, nous aimons ces gens-là et nous voulons les aider. Bien, le clergé...
Comme on aime ses enfants quand on les envoie en vacances au bord de la mer.
La Banque mondiale, je crois qu'on pourrait même en parler longuement, nous avons eu le satisfecit du président de la Banque mondiale lui-même. Je vous laisse
Monsieur
la parole.
Monsieur Wolfelson, oui, nous avons pris contact avec la Banque mondiale aussi en relation avec une étude des Nations Unies. Vous savez, cette étude qui prétend que, étant donné l'implosion démographique de l'Europe, l'Europe serait en nécessité d'importer des centaines de millions. Or, la Banque mondiale a un peu repris le même thème et nous avons utilisé cette occasion comme une occasion de présenter nos idées. Et quelles étaient nos idées? C'est-à-dire que depuis l'étude des Nations Unies, on n'a pas vu un gouvernement européen faisant une liste d'alternatives. Une alternative pour un flux migratoire excessif. Il aurait été prudent pour nos premiers ministres, je parle de toute l'Europe, de présenter la volonté, de générer la volonté politique et de présenter quelques alternatives. Or, on ne l'a pas fait. Je n'ai vu dans aucun pays européen...
Il y a un fatalisme qui est extraordinaire.
Alors, nous avons fait ce travail pour les premiers ministres et je crois que nous avions de petites mesures, de grandes mesures ensemble, peut-être une trentaine de choses qui seraient utiles pour...
Et nous avons eu les remerciements personnels
de Monsieur
du président de la Banque mondiale avec une délicatesse qui, je me permets de citer cette délicatesse parce qu'elle est peu courante, nous avons envoyé ce document de travail en signant Monsieur Smithson, donc ambassadeur hollandais, Gérard Anzo, français. Nous avons eu deux lettres de réponse identiques, l'une en anglais à Monsieur l'ambassadeur, l'autre en français à Gérard Anzo.
Oui, avec des recommandations de visiter le bureau ici à Paris et de prendre contact.
Mais peut-être maintenant pourrions enchaîner sur la Turquie.
Non, on ne va pas pouvoir le faire, cher ami, parce que malheureusement, on s'arrête dans une minute. Donc ce que je vais vous proposer, c'est on a déjà un rendez-vous.
Oui.
Mais on va pérenniser ces rencontres, si vous le voulez.
Ah oui, avec plaisir.
Parce que ça me paraît extrêmement intéressant. C'est à la fois réaliste et intelligent, votre action, et je pense qu'il faut lui donner de l'écho. Alors, je pense que M. l'ambassadeur m'excusera de ne pas lui permettre de parler de la Turquie longuement, mais lors de la prochaine émission, on le fera. Et puis, vous reviendrez plusieurs fois pour exposer aux auditeurs vos projets et votre travail sur cette question capitale.
Une adresse, un numéro de téléphone peut-être avant la coupure
technique. Vous pouvez au moins noter l'appel à la manifestation contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne sous forme d'un défilé samedi 26 avril à 14h30, place d'Enfer Rochereau, départ boulevard Aspal. C'est bien ça, monsieur l'ambassadeur.
Oui, c'est ça.
Je pouvais en dire un mot ce matin, vous avez vu des Arméniens à ce sujet-là.
Oui, pour prendre des contacts avec ceux qui connaissent et qui ont aussi des dossiers avec la Turquie, nous avons pris l'initiative de la visiter et nous étions très bien reçus et nous avons pu parler donc aussi de la Turquie.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Pardon, leur commande. Merci, monsieur Anzo. Très peu, je crois que c'est dans 15 jours, 3 semaines qu'on se retrouve. Avec grand plaisir. Merci.
Merci de passer la soirée en notre compagnie sur Radio Courtoisie à 21h, tout à l'heure, les soirées musicales. Je passerai la première heure avec vous pour Série Jazz et puis en seconde partie d'émission avec l'audio, les musiques de films. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Vous écoutez Radio Courtoisie les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 avril 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Nous y revoilà. Autour de cette table, Patrick Goffman ayant été puni, et vous savez pourquoi il a été puni ? Parce que pendant qu'il est allé s'empoisonner avec du tabac de contrebande, les gens ont pris sa place. C'est bien fait, ça lui apprendra à fumer. Je t'avais toujours dit que c'était mauvais de fumer. Alors autour de cette table, le père Jean-Paul Argouache. Bonsoir mon père.
Bonsoir Serge.
C'est très étonnant de vous trouver ici.
Ah bah écoutez, j'aime tellement Radio Courtoisie, je voudrais y être tous les jours, mais je ne peux pas.
Jean-Yves, ça y est, j'ai un trou. Jean-Yves Bilien, qui est vidéaste.
Cinéaste, oui.
Mais le vidéaste, c'est pas quelque chose de... Je l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose de pécamineux, hein, c'est tout à fait un métier. J'ai fait des images, voilà. Henri de Fersan, qui fait des textes, pécamineux d'ailleurs. Je vous signale que si vous dites des choses qui m'envoient en justice, je viens vous tailler les oreilles en pointe. Hein.
Je vais faire ressembler à Monsieur Spock.
Victoria, qui est toujours là. Et puis, un très très vieil ami que je suis vraiment content de revoir et de recevoir. Alors, c'est non pas qu'il soit très vieux, mais ça fait très longtemps qu'on est amis. On a usé nos culottes ensemble sur les bandes pilotes.
Oui, absolument.
Qui s'appelle Patrice Serre, qui est un grand dessinateur, qui a dessiné les plus grands personnages de la BD, cites-en quelques-uns.
Tanguy et la Verdure.
Tanguy et la Verdure. Et oui, mais il faut que tu, comme oui, tu as une voix un peu sourde, il faut que tu mettes bien.
Tanguy et la Verdure, voilà.
Tanguy et la Verdure, entre autres.
Voilà, entre autres.
Et combien d'autres ?
Et Sinclair, etc.
Voilà. Mais qui est aussi, alors chose, ça prouve bien qu'il n'y a pas que des imbéciles dans la bande dessinée, on s'en était déjà aperçu depuis longtemps, qui est également un cynophile et même, on pourrait presque dire, un cynologue distingué, et qui va nous parler tout à l'heure d'un personnage très étrange, très, très mystérieux. Ça nous détendra un petit peu, parce que l'atmosphère est un peu lourde ces temps-ci. On va rêver un petit peu d'un personnage.
C'est une espèce d'homme de science perdu dans un climat magique.
Voilà. Alors, le premier à qui je donne la parole, non, c'est pas vous, mon père. Je vais vous garder. Je vais d'abord donner la parole à Jean-Yves Bullien, qui vient de réaliser un reportage vidéo sur un personnage que les auditeurs de cette émission connaissent bien, parce qu'on lui a consacré une émission de 3 heures, et qui est quand même un personnage, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pittoresque, et le mot est faible, qui s'appelle Loïc Leribaud. Alors Loïc Leribaud, c'est un chercheur, c'est un criminologue qui a débuté comme ça, et puis ensuite qui a mis au point des techniques d'identification des indices tellement fins, des techniques tellement fines et tellement performantes que on a trouvé qu'on pouvait faire ça sans lui, et donc on s'est passé de ses services, on lui a volé ses inventions. Au cours de ses recherches, il a tout à fait par hasard découvert un produit extraordinaire. Il a découvert ça parce que en faisant ses manipulations de produits divers, il s'est aperçu qu'il avait une affection cutanée, et il s'est aperçu que la main qui avait trempé dans un liquide qu'il avait fabriqué avait guéri, alors que l'autre main n'avait pas guéri. Je résume très rapidement. Donc il a cherché à comprendre ce qui s'était passé, et il a mis au point un produit qui s'appelle le GR5, qui est on dira pas un produit miracle, mais un produit très étonnant, qui a des capacités très étonnantes. Et il a donc été... il a subi le sort de Beljanski, mais si j'ose dire en pire. Parce que lui, il a été carrément foutu en prison, au secret. On a littéralement torturé sa vieille mère, qui a fini par mourir de terreur et de malheur. Il a été obligé de foutre le camp à l'étranger. Il ne peut plus rentrer en France parce qu'il serait immédiatement arrêté, alors qu'il n'a jamais fait de mal à personne, jamais tué personne, ni rien. Bon, simplement, il fait de la concurrence au lobby pharmaceutique, au lobby des grands laboratoires, à la mafia des grands labos pharmaceutiques, ce qui ne leur plaît pas du tout, et ils ont décidé d'avoir sa peau. Donc, il vit dans un pays étranger, on peut le dire, c'est l'Irlande. Et j'avais consacré une émission de 3 heures à diffuser une interview de lui par Jean-Paul Leperlier. Et là, Jean-Yves Bullien est allé le voir et a tourné un reportage vidéo sur lui.
En fait, on a tourné un documentaire d'investigation qui a duré 14 mois sur, l'incroyable histoire de Loïc Leribaud. Donc en fait, ce documentaire raconte son parcours, sa vie. On commence à la géologie, après on passe à la rénovation de la police scientifique, et enfin pour finir, où là on a mis l'accent vraiment sur le silicium organique, sur le G5, ce produit incroyable.
Oui, j'ai dit GR5 parce que c'est, je pense, la grande randonnée, mais ça n'a rien à voir, bien évidemment.
Et avec des vertus thérapeutiques aujourd'hui que des milliers de personnes connaissent en France et en Europe. Donc en fait aujourd'hui on a...
Alors je voudrais faire une parenthèse, excusez-moi, mais je sais ce qui va se passer, des auditeurs vont téléphoner en disant « mais moi j'ai essayé le G5, ça n'a pas marché, vous parlez de vertu thérapeutique ». Oui, on parle de vertu thérapeutique, oui, il arrive que ça ne marche pas, exactement comme l'aspirine, la chimiothérapie, la chirurgie...
L'homéopathie,
Juliette est bien triste, et donc il y a des fois où ça ne marche pas. C'est vrai, on le sait, mais il y a aussi des fois où ça marche, et il y a quand même de surabondants témoignages des résultats du G5, de même qu'il y a de surabondants témoignages des résultats des produits Beljanski. Il y a aussi des gens qui meurent en prenant alors qu'ils prennent du Beljanski, qui meurent de leur cancer, mais il y a également beaucoup de gens qui meurent du cancer sans prendre du Beljanski. Donc on ne peut pas imputer à Beljanski la responsabilité du décès des cancéreux, ça serait un peu facile, et c'est la même chose avec le G5, il y a beaucoup de gens qui se sentent mieux avec le G5, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas mieux avec le G5, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent pas mieux en prenant pas le G5. Voilà, pour résumer cette question. Je vous rends la parole.
Tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, on a donc mené cette enquête grâce aussi au service d'un scientifique, d'un ingénieur chimiste, qui a fait une recherche documentaire sur tous les travaux du silicium dans le monde aujourd'hui.
Et ce film, la particularité de ce film, je peux dire que c'est un document un peu unique dans le genre, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas osé, je dirais, traiter un produit, en plus interdit en France, illicite, ce fameux silicium, parce que souvent on dit les compléments alimentaires, les produits dits non conventionnels, etc., sont des produits dont on sait rien, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors il se trouve que là, on a quand même 40 ans de recherche derrière, et donc le premier ingénieur chimiste qui a parlé la première fois du silicium organique, c'est Norbert Dufaux, et il y a eu des travaux très sérieux là-dessus, donc on a fait vraiment une recherche de fond sur cette histoire. D'autre part, en plus, on a le but aussi de cette démarche, c'était de se dire, de faire une série de documentaires, dont là on vient de faire le premier, sur tous ces chercheurs qui ont été, bannis, occultés par l'État ou par différentes...
C'est un peu la version cinématographique du travail qu'a fait Pierre Lanz dans son bouquin, dont il a parlé hier sur Radio Courtoisie.
Tout à fait. En fait, moi, le départ de cette histoire, c'est j'entends parler de Le Ribot, et immédiatement, j'appelle en Irlande parce que son histoire m'intéresse. Moi, j'arrête complètement toute activité parce que, voilà, je suis porté par... J'ai trouvé du sens à quelque chose. Et je rencontre Pierre Lanz, et Pierre Lanz me parle de son livre « Savant maudit, chercheur exclu ». Et là, je décide de lancer une série de documentaires sur ce livre et sur l'histoire de tout... de ces 12 scientifiques avec un passé, une vie incroyable, quoi.
Et donc, alors, vous avez réalisé un reportage, vous dites 14 mois le...
Voilà, il y a eu 14 mois d'enquête, c'est un film qui fait 1h15, qui va faire 1h15. Aujourd'hui, on est dans une situation, moi j'ai financé ce film avec mes propres fonds, donc j'ai arrêté tout ce que je faisais avant pour faire ça, et donc aujourd'hui, on a réalisé, je dirais, 80% du film, et maintenant on cherche des moyens pour le terminer, quoi. Donc on met en vente, on fait une pré-vente.
C'est ça, vous faites une souscription.
Voilà, tout à fait. D'accord. Des cassettes pour pouvoir aboutir ce film et qui sortent.
Donc ce sont des cassettes vidéo ou des DVD?
Ce sont des cassettes vidéo, des VHS.
Et vous n'envisagez pas de le faire en DVD?
Si, bien sûr, mais dans un premier temps. Puis en plus, là, on a fait une petite étude. On a beaucoup plus de gens concernés par le magnétoscope VHS que par le DVD pour l'instant.
Il y a on voit Le Ribot, vous l'interviewez, il y a un travail de...
Alors on voit Le Ribot, alors on l'a filmé, on est retourné 3 fois en Irlande pour le filmer. On l'a filmé à Jersey aussi.
Oui, parce que Jersey, c'est l'endroit où tout est parti, enfin.
Oui, exactement. Et on a aussi, bien sûr, on a fait le tour de France pour aller filmer des témoins qui sont soignés avec son produit, avec le G5. On a rencontré des avocats, des scientifiques. Enfin, vraiment, on a fait un beau tour de la question, je crois.
Bien. Alors, si on veut se procurer cette cassette, souscrire à cette cassette qui n'attend que la fin du financement.
Voilà, c'est ça.
Pour comment dirais-je, pour l'enregistrement en multi, quoi. On dirait pour un livre à l'impression. Donc si on veut participer à cette souscription, il faut que vous nous donniez les coordonnées de...
Voilà.
Enfin, l'adresse à laquelle il faut envoyer un chèque. Et le montant du chèque,
voilà.
le prix donc de la cassette par souscription, qui ne sera pas le même une fois que la cassette sera terminée, bien entendu, selon la vieille tradition de la souscription.
Donc en fait, le prix de la cassette est de 25 euros. Hein. Donc je donne l'adresse, c'est donc Satya Production.
Alors répétez-le parce qu'on n'a pas compris. Enfin, moi, j'ai pas entendu.
C'est Satya Production.
S-A-T-I-A.
S-A-T-Y-A. Production. 112 boulevard Jean Jaurès. 112 boulevard Jean Jaurès. 92-110 Clichy. 92-110 Clichy. Le téléphone, c'est le 01-40-87-03-53. 01-40-87-03-53.
Merci beaucoup, Jean-Yves Billien. Je pense que je vais vous demander de me donner un prospectus parce que je sais qu'on va avoir des coups de téléphone pour réclamer de nouveau l'adresse. Et je publierai ce prospectus dans la dernière page du Libre Journal que je consacre en général à la répétition des adresses des personnes qui participent à l'émission quand ça se justifie. Merci en tout cas, et je suis certain que c'est une cassette qui intéressera beaucoup d'auditeurs parce que quand on a fait cette émission de 3 heures sur le Ribot, c'était pas évident de faire une émission de 3 heures sur un sujet comme ça. Ça avait eu un succès vraiment exceptionnel. Ça avait passionné les auditeurs. Merci bien.
À vous. Merci à vous. Bonsoir.
Mon père, vous aussi vous passionnez les auditeurs, ils vous aiment.
C'est vrai.
C'est incroyable, mais vous êtes devenu une vedette de la radio.
Si
maintenant.
Je peux faire aimer notre Seigneur Jésus-Christ à travers ce que je dis, c'est une grâce.
En plus, c'est le jour ou jamais, le mercredi décembre.
Oui,
j'étais obligé de vous faire venir parce qu'autrement, comme a dit ma femme, elle m'a dit « Est-ce que tu as pensé que c'était le mercredi décembre ?» Alors je me suis trouvé tout bête.
C'est le mercredi décembre, c'est mercredi
saint. Mais... Alors je me suis trouvé tout bête et puis d'un seul coup je lui ai dit « Mais bien sûr que j'ai pensé, tu crois que tu penses ?» J'ai invité le père Argouache. Ouf, je m'en tire. Voilà. Alors, comment ça va?
Je voulais vous dire qu'on a eu une très belle fête de dimanche des Rameaux.
Prenez pas votre voix douce.
Vous voyez la ferme?
Ne prenez pas votre voix douce parce que j'y crois pas. Hein, il prend toujours des airs un peu angéliques comme ça.
Vous voyez la ferme?
Je vois la ferme.
La ferme
la ferme chez vous, oui, bien sûr.
Alors, il y avait un repose-bar. Et puis, j'avais trouvé 25 grandes palmes. Vous savez, on se serait cru en Palestine.
Vous avez trouvé ça où?
Je les ai fait venir de Lille ou de Cannes. Je les ai fait venir. Tous les ans, je fais venir des grandes palmes. Et donc, les petits louveteaux, les petites louvettes tiennent leurs palmes. C'est tout à fait oriental. C'est très, très beau. Et alors, il y a la procession qui part du reposoir. Et vous savez que la ferme participe à cette procession. Et cette année encore, au moment où le père Alain Hochmiller, notre prieur, parler du reniement de Saint-Pierre, d'un seul coup, le coq s'est mis à chanter.
Non.
Si, c'était extraordinaire.
Il y avait
pas du tout. Il n'y a pas de magnétophone qui avait enregistré le coq. Vous savez que il y a. Oui, c'était extraordinaire. Mais les gens retenaient leur souffle. C'était fabuleux. Il n'y a personne qui a ri d'ailleurs. Hein. Tout le monde pensait que c'était normal. Et vous savez, toutes nos oies, c'est vraiment. Elles se tiennent impeccables parce que toute la procession passe le long de la ferme.
Parce que les oies processionnent aussi.
Ah oui, mais pas à ce moment-là.
Pas de loi quand même.
Pas au point de loi. Je crois que ça serait assez mal vu. Et puis, évidemment, la chapelle étant trop petite, il y avait énormément de monde dehors. C'était très beau. Environ 200 enfants qui chantaient, mais de façon admirable. Et puis, cette liturgie tridentine. Comment ?
C'était des étrangers.
Des
Français qui chantent ensemble d'une façon admirable.
Il y avait quelques petits maghrébins.
Alors c'est un miracle de Pâques.
Qui chantaient très très bien, comme quoi on peut leur donner l'identité catholique et française.
Si ils viennent catholiques, il n'y a aucun problème.
Et puis, à la fin, j'avais beaucoup de pieds noirs, parce que c'était un grand rendez-vous des pieds noirs le dimanche des Rameaux. Et à la fin, les spahis, les scouts ont chanté, les Africains. C'était superbe. C'était vraiment très émouvant. Moi, ce dimanche des Rameaux à Riomont, c'est vraiment une grâce. Et puis, après, il y avait un repas, donc, avec tous ces pieds noirs.
Moi, j'étais à Saint-Nicolas, c'était bien aussi.
Bon.
Ouais, non, mais plus chic, ils avaient installé un reposoir devant l'école polytechnique. Mm-hmm. Et il y avait un soleil magnifique.
Oui, il y avait un soleil magnifique.
Très, très beau soleil.
Un soleil d'espérance.
Et je pense que c'est des arbres à fleurs roses.
Oui.
Qui s'étaient mis sur leur 31 juste pour les circonstances. C'était vraiment très réussi.
Une très belle lumière.
Et vous étiez où, Goffman?
Moi, j'étais à Port-Marly.
Ah oui.
Et je crois que nous devons exprimer quelques regrets aux auditeurs qui nous ont cru et qui sont allés à 15h.
Pour écouter mon sermon. Et en fait, c'était plus tard.
C'était à 17h.
Alors, je me frappe la poitrine, moi aussi.
Voilà. Vous battez votre coude.
Oui, je bats ma coude
sur ma poitrine.
Plus que 3 ou 4 fois, parce que, effectivement, c'est moi qui vous donnais une mauvaise information.
Reste pas moins que ça a été un succès. Si on peut parler de succès concernant une cérémonie religieuse, il y avait beaucoup de monde.
Oui.
Il faut mieux battre votre coude que vos élèves.
Ce qui est formidable à Port-Marly, c'est que le prêtre prêche en chair, comme à Saint-Nicolas d'ailleurs.
Bah oui.
Mais c'est rare d'avoir une église où encore
les chairs
ont été cassées, démontées, mutilées. Nous, on a récupéré une chair d'une église qui est magnifique, qu'on mettra peut-être dans notre future église. Mais c'est vrai que...
Remarquez les autres, c'est tellement peu intéressant ce qu'ils ont à dire que c'est pas vraiment pour la peine qu'ils montrent.
On appelle ça la chair de vérité.
Ouais.
Et oui. Donc nous, on prépare le vendredi saint chez nous, pour ceux qui voudraient venir, il y a un grand chemin de croix à 15h. Et là aussi, ce qui est tout touchant, mais je prends pas ma petite voix, Serge, ce qui est très touchant, c'est que les enfants décorent 14 stations, une qui est consacrée au Père Revet, notre fondateur, et puis une pour les scouts morts pour la France, et on encense les grands cimetières de Notre-Dame de Lorette, de loin, et c'est très très beau ce lien entre les morts et puis les vivants. dans ce corps mystique du Christ et cette prière en demandant les grâces, qu'elles viennent du ciel ou de partout, en tout cas qu'on soit vraiment des apostoliques dans ce pays des mines qui a été très éprouvé par la crise de l'Église. Il y a très peu de prêtres.
Vous faites l'office des ténèbres dans la petite chapelle ?
Oui, on fera l'office. Il y aura la bénédiction du feu nouveau, le Lumen Christi avec le cierge pascal, là aussi c'est très émouvant, et puis on aura les lectures et puis toute la nuit pascale. C'est superbe.
À l'entendre, on aura presque envie de devenir catholique. Hein. Arrêtez d'être gnostique. Gnostique.
Donc voilà. Donc si vous connaissez pas Riomont, faut venir un jour au petit village qui résiste.
Ah oui. Mmh. Tu connais pas Saint-Patrice, toi ?
Non.
Ah voilà, un endroit où il faudrait que tu ailles.
Adresse, téléphone, compte chèque postal.
Ah oui, c'est généralement après ça, Patrick. Généralement, je suis assez méchant quand on me coupe. Oui. Une fois, c'est arrivé. J'ai fait une colère. Qui était sûrement pas sainte.
Une colère blanche.
Ce que je voulais dire, parce que je peux pas monopoliser la parole, c'est que la dernière fois, j'ai lu une lettre ouverte au ministre de la Justice.
Oui.
Vous vous souvenez ?
Oui.
Ben
oui.
Ça faisait 4-5 mois que j'attendais une réponse. Ah. Eh bien, Serge, 4 jours ou 5 jours après, j'ai eu la réponse.
Ah oui, c'est ça.
Et il y a un secrétaire du ministre...
Qui écoute la radio.
Oui, ou les RG qui ont prévenu le secrétaire en disant « Le père Argouarche a encore fait des siennes. » Toujours est-il que j'ai une réponse. Et merci en tout cas aux gens des RG qui m'écoutent. Je les remercie beaucoup parce que grâce à eux, sans doute, je n'en ai pas la preuve. Mais je peux supposer... normalement que ça s'est produit comme ça. Et alors, pour tout ça, pour me dire que je ne suis pas harcelé. On a fait une enquête près de la cour d'appel de Douai, et non, je ne suis pas harcelé. Alors maintenant, je dis à ceux qui m'écoutent, nous allons produire les pièces du harcèlement, qui n'est pas un harcèlement sexuel. Quand on parle d'harcèlement maintenant, c'est un harcèlement sur nos enfants. Bien sûr, il faudrait leur faire dire qu'on les bat, qu'on les torture, etc., et qu'il y a de la maltraitance.
Mais vous avez dit tout à l'heure que vous battiez votre coulpe. Alors quand on commence comme ça, on est capable de battre n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est que votre coulpe.
Voilà. Et voilà, je voulais annoncer aussi la journée du dimanche 18 mai 2003. Je vais essayer de donner les bonnes heures. Que Patrick Goffman va encore me faire frapper sur sa poitrine. Mais j'aimerais bien le frapper sur sa poitrine,
oui,
pour voir ce que ça fait.
Plaisir, parce que
vous savez qu'il a l'air d'avoir du coffre.
Quand les hommes font les hommes d'1m80 et 100 kilos parlent, les hommes d'1m70 et de 70 kilos les écoutent.
Voilà. Alors, dimanche 18 mai 2003, à Villepreux, donc tout près de Versailles, Saint-Cyr-l'École, la grande journée Riomont, il y aura des dédicaces de livres, il y aura le fameux livre qui va sortir sur Baden-Powell de Philippe Maxence.
Alors vous prétendez avec insistance que le camarade Baden-Powell n'était pas franc-maçon.
Et à chaque fois qu'on a parlé scoutisme, Serge, pratiquement à chaque fois c'est ressorti.
Ah oui, mais moi je
à chaque fois comme une sorte d'obsession.
Ah oui, mais obsédé moi.
Oui, mais alors d'abord la grande loge d'Angleterre a fait une enquête parce qu'ils auraient été très contents de revendiquer que Baden-Powell était franc-maçon. C'est quand même intéressant. Bon, après, donc on n'a rien trouvé. D'autre part, il avait un frère qui l'était, et je pense que, comme d'après ce que j'ai entendu dire, il avait le même prénom, il peut y avoir confusion. Et deuxièmement, sa fille...
C'était Baden-Baden.
Voilà. C'était Baden-Baden. Et puis sa fille témoigne que c'est pas vrai. Enfin bref, il y aura des informations là-dessus. Philippe Maxence a fait un très bon livre sur Baden-Powell. Il y aura bon d'autres ouvrages comme Riomont, Citadelle de l'Espérance, qu'on pourra se faire dédicacer, j'espère, par Rémi Fontaine, Les Feux de la Saint-Jean, l'histoire de Riomont, la mémoire du scoutisme de Rémi Fontaine.
Ça, c'est un truc vraiment... Moi, je pense que toute personne qui a été scout, oui, ne serait-ce qu'une demi-heure dans sa vie, devrait avoir dans sa bibliothèque ce bouquin, parce qu'il est formidable.
Ah oui, oui, oui. Louis Fontaine...
C'est pas seulement...
Et alors, il va être réédité avec des ajouts. Ça va être magnifique.
Ouais, c'est un très, très bon livre. C'est bourré d'informations.
Voilà. Alors après, bien sûr, alors le programme, c'est une grand-messe le matin à 10h30. Il y a la projection de beaucoup de films, dont celui sur le Gerver le Christ, le petit village breton. Le nouvel architecte qui s'occupe du village sera au stand pour expliquer ce qu'on va faire de ce village, avec Max Champoiseau qui m'aide dans cette aventure. Il y aura, alors je ferai des projections, un diaporama sur le Père Revé.
Il est installé là-bas, Champoiseau, il est pas loin, non ?
Non, oui,
il est natif du Finistère.
Là, c'est dans le Morbihan.
Oui, c'est vrai. Ouais,
enfin, c'est la Bretagne,
tout ça.
C'est un grand pays qui est tout petit. Parce que quand on veut se donner la peine, on découvre des choses magnifiques. Et puis, alors, il y a un carrefour sur le scoutisme
avec le père Alain Miller, avec le père Hervé Tabourin, Alain Mouliat qui est président de notre association. Et,
carrefour
et,
de l'amitié en somme.
Carrefour de... Mais Serge, c'est dramatique ce qui se passe dans le scoutisme actuellement. Et c'est vrai, il y a de quoi pleurer parce qu'on a voulu casser le scoutisme, mais il va ressurgir plus beau qu'avant. C'est du désert, va sortir des fleurs, des jardins. Le scoutisme, à mon avis, s'il traverse une sorte de passion, il va y avoir la résurrection. Et ça, c'est sûr. Hein. Voilà, donc, ce que je voulais dire. Et puis, alors, il y a des... Alors, le frère Olivier sera à la porterie. Il y aura une vente spéciale d'un tas de
là-bas
livres.
Là-bas,
à Villepreux. Toujours à Villepreux, Serge.
Alors, il faut
aller à Villepreux, dimanche, oui. 18 mai, nous soutenir. Mais surtout, en fait, le but de l'opération, c'est d'amener des bienfaiteurs, des nouvelles personnes. C'est ça, le but de l'opération. Oui. C'est faire connaître. Parce que...
On a compris, c'est de prendre du fric, c'est...
Mais pas du tout.
Ah bon, pardon.
Pas du tout. Parce que ceux qui prient bien, nous font avoir des dons énormes. C'est grâce à la prière.
Non, mais c'est bien ce que
et
je
oui,
voulais
mais
dire.
Dieu premier servi, et ensuite ça tombe. Et c'est vrai que depuis la dernière fois...
Vous connaissez l'histoire de la quête, non? Vous voulez que je vous la raconte?
Mais oui, sûrement, je ne la connais pas.
Je la raconterai après.
Pardonnez-moi, mon père, parce que je n'ai pas encore compris où, à Villepreux, vous donnez rendez-vous le 18 mai à nos auditeurs.
Alors, au château de Villepreux, chez Monsieur de Saint-Seine. Dans Villepreux, il n'y a qu'un grand château, c'est une sorte de palais des congrès magnifique. Mais vraiment, alors il y a un parking, vous pouvez vous garer, il y a des centaines de voitures qui pourront se garer, même plus. Et il y a une énorme grange qui sera décorée où il y aura la grand-messe. Dans ce qu'on appelle la cathédrale, qui est une énorme salle de cinéma, on passera les films. Mais surtout, ce qui sera le plus agréable, c'est de voir notre fanfare, Serge. Maintenant, nous avons une fanfare. La fanfare de Riomont qui sera là et qui va jouer ses plus beaux airs. Ça donnera aussi la tonalité.
Ça, c'est quand même la grande tradition des corons aussi.
De cette journée, oui. Les fanfares, oui. Oui. Autrefois, la fanfare de Riomont défilait dans Liévin du temps du père Revet et elle était très, très appréciée.
Alors, Villepreux, nos nombreux auditeurs des Yvelines savent bien où c'est, mais il faut dire aux Parisiens, par exemple, que c'est dans les Yvelines, tout à côté de Saint-Nom-la-Bretèche. Et pas très loin de Versailles.
Oui, on prend Saint-Cyr-l'École, de Versailles on prend la route de Saint-Cyr-l'École, et puis on arrive à Villepreux au bout de 4-5 km, 6
km. C'est très facile à trouver.
C'est très facile.
J'ai découvert, moi, la grande maison à côté du château de Villepreux, et je tiens à dire que le cadre en lui-même mérite le déplacement.
Voilà, bon, voilà. Un auditeur téléphone mon père en disant « Je possède un petit livre de Baden-Powell. » Il dit un petit bouquin, mais c'est parce qu'il est mal élevé. Moi, je suis très bien élevé, je dis un petit livre. De Baden-Powell, le guide du chef éclaireur traduit de l'anglais par Jean Carrard. Si ça vous intéresse, il peut vous le faire parvenir.
Oui, c'est intéressant. Vous savez qu'on a un laboratoire du scoutisme. Les scouts de France ayant détruit, vous le savez, ayant mis le feu à de nombreux ouvrages et surtout à des films, ça a été terrible. En 1964, au moment de la réforme, mais aussi en 1968,
on a détruit toutes les
images. Oui. Et alors, ce qu'on appelait les galettes, dirait Louis Fontaine, hein, ces énormes films, tout ça, ça a brûlé. Et c'est vrai que c'était pénible. C'est la révolution culturelle du scoutisme, c'est faite comme toutes les révolutions culturelles marxistes. Et puis,
vous avez des chemises rouges, d'ailleurs.
Oui, que j'ai porté, Serge.
Ne vous vantez pas.
Non, pas du tout. Je voulais être scout. J'avais rêvé d'être scout en Algérie avec les événements. C'était très difficile. Je suis scout à la 4e Angoulême quand on a été mis à pied de l'Algérie, quand mon père a été arrêté. Je suis à la 4e Angoulême, je passe 6 mois. Je ne peux pas faire ma promesse. J'arrive au Sable d'Olonne. C'était au moment de la réforme. Et je rends hommage à Mondévy, car Mondévy, à l'époque, a fait un article extraordinaire. Mes parents m'ont envoyé cet article, et sur cet article, j'ai compris que je ne pouvais pas faire ce scoutisme-là. Et du reste, la troupe des Sables d'Olonne a périclité, le local est devenu un bar, et tout le sens du sacré a disparu. Et j'ai connu le scoutisme vraiment à Riomont, et j'ai fait ma promesse à 21 ans sur un étendard, d'ailleurs dans le Morbihan, à Pont-Calec.
C'est vrai que vous êtes tout jeune, finalement.
Oui, j'ai joué au football hier et je me suis fait... Vous m'avez dit, oui, c'est pas un sport de vieillard. Je sais, Serge, vous n'aimez pas trop le football, mais moi, j'aime bien le football.
Moi, je me sens pas seul.
Serge, on va pas discuter.
C'est ma croix, faire ça.
Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Riomont, j'avais 21 ans. Heureusement que je passais mes gars en dribblant, parce qu'ils me respectaient après. Si j'avais pas su faire ça, je crois que... Moi, j'avais que 21 ans, j'en avais qui avaient 22 ans. Hein, ils voulaient me faire à la peau. Et heureusement, comme je jouais bien, il me respectait. Bon, il y avait autre chose sûrement.
Merci. Probablement.
Le père Argoche connaît-il, a-t-il rencontré le père Guy Gilbert?
Alors, c'est une question qu'on me pose très très souvent, et encore tout à l'heure on me l'a posée, il y a, je pense, environ 80 ou 100 personnes qui m'ont demandé de le rencontrer. Je devais le rencontrer il y a 2 ans au salon religieux, on s'est raté à 4-5 minutes. Hein. J'ai lu un interview de lui dernièrement, alors il dit « je frappe et je discute après ». Alors évidemment, je vais aussi demander sans doute au ministre, alors que si le ministre de la famille vient d'aller chez lui, si le ministre de la famille qui vient d'aller chez lui est d'accord avec de telles méthodes, c'est quand même un peu étonnant. Il est très médiatique.
Fallait voter Bérou, hein, vous auriez eu le droit de taper.
Enfin bon, je sais qu'il fait quand même du bon boulot, même s'il y a quelques différences. Et je sais qu'il a eu beaucoup de problèmes avec les magistrats et qu'il n'a pas peur des magistrats. Hein. Quand il va avec un garçon chez un juge, il a son langage et il est capable de dire au juge son fait. Moi, je ne peux pas encore faire ça parce que j'ai pas de mon blouson, vous savez, n'a pas de clous et pour l'instant. Et donc, je suis sur un autre registre, mais on s'occupe du même genre d'enfant. Songez que les bêtises à Riomont dernièrement, 2 garçons m'ont cassé une armoire électrique. Il y a pour 15 000 francs de dégâts. Et vous savez pourquoi ils ont cassé l'armoire électrique?
Par haine de l'électricité, non?
Pas du tout, parce qu'ils avaient un appareil numérique et qu'ils voulaient faire un casse. Il y en a un, pendant que l'autre cassait, qui prenait des photos les unes après les autres pour faire un petit film. Bon, à côté de ça, il y a des garçons qui sont formidables.
Quel âge?
13 ans et 14 ans. Bon, à côté de ça, il y a des garçons qui sont sensationnels. Ils sont pas tous comme ça. N'ayez pas peur, si vous venez à Riomont, on vous dévalisera
non,
pas.
Ils sont tellement mignons.
Ils servent tellement bien la messe.
Ils sont rigolos comme tout. Les petits, ils sont adorables. Enfin, ça. Non, il y en a qui sont... C'est des durs, quoi. C'est des bons gars, on sent.
Voilà, mais il y a moindre, aussi des enfants qui ont des problèmes et qui sont de familles unies. Voilà. C'est mélangé.
C'est une bouteille d'eau qui vient d'exploser.
Voilà, Serge, je vais laisser. Non, je voulais dire simplement une petite chose pour terminer. Je suis passé dans un tout petit village à Magnicourt-en-Comté. C'est tout près de Riomont pour avoir des nouveaux animaux. Des pannes, des bêtes. Parce qu'on a une ferme et il faut tous les printemps, on a des nouveaux animaux. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en passant comme ça sur la route, je marchais et il y a un tout petit garçon, mais qui devait avoir 3 ans ou 3 ans et demi, qui m'a regardé. Et qui, sa maman le tenait par la main, et qui a dit en me regardant avec un sourire, mais radieux, mais extraordinaire, j'étais transpercé par cet enfant, il dit, mais c'est un père, c'est un père. Mignon. C'était très mignon. Et alors, il tirait sur le bras de sa maman pour venir vers moi. Et j'ai pensé à cette phrase du Christ, laissez venir à moi les petits-enfants, et il avait un visage d'ange. Et quand je suis repassé en voiture, j'ai évidemment ralenti, j'avais baissé la vitre, et alors, c'est le père. Et je me dis qu'au fond, les parents doivent être formidablement chrétiens, parce qu'ils avaient donné à ce petit enfant qui sait à peine parler, mais il savait le dire, il avait 3 ans et demi, hein, Serge. Je suis sûr qu'il n'avait pas 4 ans. Il était tout petit. Ils avaient donné le sens du sacré. Et je vois, rien n'est perdu. Si on a des parents qui donnent le sens du sacré à de tels enfants, la France se relèvera, j'en suis sûr. Elle va ressusciter encore plus belle qu'avant.
Ça voilà. Me rappelle l'histoire que le père Gesselin racontait quand il venait nous voir, qui était grand exorciste du diocèse de Paris, qui était un prêtre extraordinaire, un prêtre breton ou normand, je ne sais jamais s'il était breton. Normand. Qui était physiquement, c'était un roc. Exactement un roc. Et alors, il avait gardé une pointe d'accent. Et alors, il nous raconte, je lui disais, mais quand avez-vous eu la vocation? Comment ça s'est passé? Il me dit, j'étais très jeune. Un jour, à la maison, il y a un prêtre qui est venu. J'avais 3 ans. Il m'a dit, et toi, mon petit garçon, que feras-tu plus tard? Je lui ai dit, je vais être curé comme vous, monsieur le curé.
C'est très beau. Il faut expliquer aux auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur et qui, par extraordinaire, n'ont jamais vu le père Argoche, qu'il porte la robe, et même une robe
cool.
Sui generis.
J'ai pas défroqué, effectivement. J'ai mon froc, qui est une bure kaki, couleur de la piste, la même soutane que portait le père Sevin au camp à Chamarande, avec les 2 poches. Ce que nous avons en plus, puisque nous sommes religieux et oblats bénédictins, c'est le scapulaire.
Voilà. Si bien que les enfants de 3 ans, comme les agents du fisc, peuvent vous identifier au premier coup d'œil.
Oui, mais quelquefois je suis reconnu dans les grands magasins parce que les enfants ont vu Don Camillo. S'ils n'ont pas vu Don Camillo, ils trouvent que ce n'est pas la même couleur, mais ils m'apparentent à Don Camillo. Et c'est vrai, je les interroge, je vais au-devant des enfants, je dis mais comment ça se fait? Alors des petits-enfants de 6-7 ans disent oui, mais j'ai vu Don Camillo.
Merci mon père. Vous rappelez l'adresse de Riomont en 2 mots?
Alors village d'enfants de Riomont, boîte postale 28...
62 801 Liévin, CEDEX. On a un site internet qui marche très bien et qui est alimenté actuellement avec de nouvelles photos et qui s'appelle, je vais le dire à Patrick Goffman qui a une très bonne articulation de le lire.
riomont@riomont.net. J'appelle, on a des auditeurs, il naît des auditeurs tous les jours, hein, comme dit Jean Ferret, donc j'appelle R-I-A-U-M-O-N-T, riomont@riomont.net. Question subsidiaire, vous refusez l'échec, je crois, cette semaine.
Alors, vous savez que le village breton a besoin de dons, et puis ça arrive. La dernière fois que je suis passé, tous les jours, il y avait un don. Il y a maintenant 600 bienfaiteurs pour le village breton, et je rassure tous ceux, les bienfaiteurs, ils vont recevoir une lettre avec le point sur le village breton, tout ce qu'on a fait, tous nos projets. Merci.
Donc, on envoie l'échec à quel ordre?
Alors, pour le village breton, scout et guide de Riomont à Riomont. Et puis pour l'œuvre de Riomont, Notre-Dame de Riomont. Et ceux qui veulent donner pour l'église, Sainte-Croix de Riomont.
Donc il y a trois adresses. Voilà. Si vous voulez donner pour le village, c'est...
Pour le village d'enfants, c'est Notre-Dame de Riomont. Mm-hmm. Pour le village breton, scout et guide de Riomont. Et pour l'église qui est commencée, puisque le béton arrive, eh bien Sainte-Croix de Riomont.
On ne laissez pas impressionner par l'expression « le béton arrive » parce qu'en fait, ce sera une très belle église...
Ça sera romane, le tract va sortir, un très beau tract, oui, ce sera très très beau.
Merci mon père, à bientôt, vous reviendrez je pense.
Au revoir Serge, merci. Bonne semaine sainte.
Comme le docteur Dor, on peut pas s'en passer.
Et surtout je voulais dire aux gens qui se confessent, qui fassent leur Pâques. Ça coûte rien de prendre une voiture, d'aller dans une église, voir un bon père, et puis de dire tous ses péchés en se mettant à genoux, ça fait de mal à personne. Et surtout, le prêtre, il a le secret de la confession, et la grâce de Dieu, elle est tellement belle qu'on sort heureux comme un gamin.
Je croyais qu'on parlait pas boutique ce soir.
Boutique ? C'est pas une boutique. C'est une cathédrale, notre âme. C'est pas une boutique, c'est une cathédrale intérieure, Serge.
Allez, tous se confessent. J'ai pas mal hein, quand même notre curé. Hein.
Pas mal, oui.
Patrice Serre, alors j'ai dit auteur de bande dessinée, dessinateur, auteur de beaucoup d'autres choses, parce que tu as également... Alors on se tutoie, je le répète, parce que ça fait des années qu'on se connaît, on fait pas semblant de se vous soyez. Tu as également créé, en quelque sorte, un jeu... Ou ressusciter qui s'appelle le Goral.
Oui. C'est pas un jeu, c'est un procédé de divination.
Bon, alors on va pas en parler parce que voilà, pendant la semaine sainte, on parle pas
extrêmement...
de ça.
Extrêmement, c'est dommage parce que justement.
On en reparlera en dehors des périodes.
Voilà. Ce dont on va parler là, ça va être aussi.
Ah oui, mais c'est autre chose là.
Autre chose.
Ouais. Alors et donc tu es en plus un amoureux de la Chine, un spécialiste de la Chine, tu as vécu dans des années particulièrement
dur,
intéressante, puisque tu étais là-bas pendant la révolution.
La révolution culturelle,
oui. Et tu as fait une brochure.
C'est une commande. Finalement, c'est assez curieux pour Sciences Frontières. Le festival Sciences Frontières, Casga, je fais l'affiche tous les ans de ce festival et de temps en temps je fais quelques petites conférences. Et cette année c'était sur les risques. Et Casga me dit, il faudrait que tu nous parles de, je sais pas moi, d'un tremblement de terre chez les Chinois et tu dois trouver ça. Et effectivement, c'était facile à trouver chez les Chinois. Mais je me suis d'abord rappelé d'une chose. Je me suis rappelé qu'un sismographe avait été inventé disons dans les années 100 après Jésus-Christ. En fait, c'est 132. Alors, j'ai tout de suite pris ma documentation et je suis tombé sur l'inventeur, qui est très très connu, qui s'appelle Chang Reng.
Ça s'écrit comment
Chang, jusque-là, ça s'écrivait comme le Chang de Tintin, hein, puis
Reng,
H-E-N-G, mais maintenant avec la façon pinyin d'écrire, c'est Z-H-A-N-G, et Reng, c'est écrit toujours H-E-N-G. Alors, ce type était un grand scientifique, et un grand scientifique heureux. Et ça, c'est vraiment rare, parce que c'est quelqu'un qui avait à peu près la puissance d'invention d'un Léonard de Vinci, mais lui, c'est pas resté dans les carnets.
Il était ministre, en fait. Il avait 3000 types sous ses ordres. Et il était, en fait, ministre de l'Intérieur. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, toutes ses inventions, il a pu les réaliser réellement. Alors, le fameux sismographe, par exemple, il l'a réalisé. Alors, ce sismographe, d'ailleurs, c'est un truc très curieux, parce que on arrive à une invention purement scientifique, mais à partir de quelque chose de vraiment, alors vraiment, chinois, magique et tout ce qu'on veut. Il avait donc parmi ses sbires, ces gens, en fait, c'était vraiment des sbires. Alors, dans le vrai sens du terme, il les envoyait sur tous les marchés et il devait collationner toutes les histoires qui se passaient. Ils avaient une jarre de thé et ils offraient le thé et les gens racontaient. Alors évidemment, ils se plaignaient de leurs voisins, etc. Et le sbire en question était chargé, en fait, de les dénoncer aux magistrats, quoi. Hein. C'était ça le truc.
La Sûreté nationale.
En même temps, oui, c'était ça. En même temps, ils faisaient les poids et mesures, c'est-à-dire qu'ils avaient la balance officielle, ils avaient les mesures officielles, et puis ils rédigeaient aussi les contrats. Alors les contrats se rédigeaient sur une planche et puis on coupait la planche en deux et les deux parties prenaient une moitié de planche. Voilà, c'était l'habitude de l'époque. Et l'un de ces sbires, justement, ça l'intéressait absolument pas, cette partie notariale, disons, du travail. Donc il s'est occupé vraiment des histoires qu'on racontait. Et plutôt des histoires de fantômes, parce que c'était ça qui l'intéressait.
Grand spécialité,
bon, c'était le grand spécialiste, c'était vraiment le grand spécialiste des histoires de fantômes. Alors tout ce qui était l'histoire de renard, de dragon, machin, bon, ça le passionnait. Et il notait. Et il en a fait un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Le Guéchou ». Qui est le classique des histoires de fantômes là-dedans. Et alors, un jour, un type vient et lui raconte une histoire absolument incroyable. C'est vraiment une histoire de soucoupe volante. Le type avait, en fait, c'était un marchand assez riche, mais il était très pingre, et puis il voulait être considéré comme un lettré. Et donc, il voulait se faire prendre dans une équipe de lettrés chez un marquis. Et donc il est arrivé en homme pauvre, mais comme il était très pauvre, justement, enfin habillé très pauvrement, et donc ça l'a retardé sur son chemin, et il est arrivé à la nuit devant la ville où il devait arriver. Donc il est obligé de dormir à la Belle Étoile.
Parce que les villes étaient fermées.
Oui, oui, il était obligé de dormir à la Belle Étoile, et d'un seul coup, alors qu'il fait vraiment nuit, il voit comme en plein jour. Et sortant du sol, une espèce de grosse vaisselle en cuivre frotté, voilà, sort, tiré par trois dragons et poussé par deux autres dragons. Alors en plus, il y a une description absolument incroyable. Les dragons avaient des queues de flammes jaunes et oranges et avec le fond bleu. Enfin, bon, c'est assez étonnant. Et c'est ça, exactement. Une fois au milieu du ciel, l'espèce de gros chaudron s'ouvre, comme si le couvercle se soulevait, et ça fait comme une ombrelle, et apparaissent deux immortels, bien sûr. On les reconnaît tout de suite aux deux bosses qu'ils ont sur le front. Et alors le type est absolument effrayé, et évidemment le truc se met à partir vers le sud, évidemment le sud, la région faste, et puis il disparaît. Et alors, il vient le lendemain raconter ça, évidemment, à l'employé du Tai Cheling, qui note. Et puis, un deuxième...
Ça, au flic de la Sûreté nationale.
Ça, bien sûr, exactement, au flic de
la Sûreté nationale. Il n'a pas peur,
là. Ah ben, bien sûr, oui. Et un deuxième type vient raconter pratiquement la même chose, un troisième, etc. Alors, le sbire en question est complètement sidéré. Et il se dit, là, c'est quand même, il y a quelque chose d'important. Donc il faut que je prévienne vraiment directement mon patron. Donc il va à la capitale, qui était quand même à 400 kilomètres. Il y va à pied. Et puis il demande audience à Chang Reng, le fameux ministre. Et Chang Reng, il ne le reçoit pas tout de suite parce que ce gars-là a une très mauvaise réputation. Il n'est pas fiable, etc. Donc il le laisse poireauter. Mais il l'a laissé poireauter 15 jours. 15 jours qui étaient terribles pour lui parce que il a été obligé de mendier pour arriver à subsister, justement, jusqu'à l'audience. Et puis le jour de l'audience arrive, il est reçu quand même, et au moment où il est reçu, arrive un messager qui vient du même endroit que lui, et qui dit qu'il y a eu un tremblement de terre absolument terrible, qui a détruit pratiquement la ville. Alors Chang Reng est complètement épaté par la concomitance des deux choses.
C'est ça qui est bizarre, parce que voilà, c'est vraiment un esprit scientifique, quand même. Et de voir que cette chose-là, qui est complètement, alors là, vraiment fortuite et bizarre, etc., c'est ça qui a déclenché chez lui l'idée de fabriquer
quelque chose qui permettrait de prévoir
les tremblements de terre. Ouais. Et c'est très important, parce qu'en Chine, les tremblements de terre, c'est en même temps, la dynastie dépend de ça. C'est quand il y a des tremblements de terre, il y a des soulèvements de population, etc. Et on arrive à la fin de la dynastie. Donc, il prévoit son espèce d'énorme chaudron. Il fait un chaudron en bronze qui fait 4 mètres de haut. Sur ce chaudron, il y a 8 dragons qui ont la tête en bas en or, bien entendu. Dans la gueule de chaque dragon, il y a une boule d'ambre. Et sous les dragons, il y a des grenouilles en céladon, d'énormes grenouilles en céladon. Et quand un tremblement de terre a lieu, même assez loin, le dragon qui est dans la direction du tremblement de terre ouvre la gueule, la boule tombe dans la grenouille, et la grenouille crie, donne un certain cri.
C'est extraordinaire.
Alors, ce truc-là, c'est étonnant, parce que tout ça, c'est vraiment purement chinois. Pourquoi une grenouille, d'abord ? Parce que c'est tout un truc de Confucius. Confucius avait raconté qu'il y avait un général dont l'armée s'était révoltée contre lui, mais qu'il ne le savait pas, et qui a été prévenu par un crapaud en colère. Donc il a fallu restituer cette histoire-là, parce qu'en fait, cet appareil-là était dans le palais impérial et était là pour prévenir l'empereur.
Prévenir l'empereur qu'il y avait, il y avait un problème, il y avait un tremblement de terre à tel endroit qui pouvait déboucher.
Alors tout était évidemment à base du Yi Jing, donc à base des huit pas quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a 8 dragons, évidemment.
Huit pas quoi, c'est les 8 directions.
C'est les 8 trigrammes.
Allez,
les trigrammes du Yi Jing, qui sont à la base des hexagrammes. Bon. Et ces fameux. Alors donc c'est pour ça qu'il y a 8 dragons, 8 grenouilles, etc. Mais en même temps, le cri de la grenouille, il y avait 8 cris possibles. Et alors il y avait un type qui était là, qui était vraiment préposé à écouter la grenouille et à dire voilà, c'est à tel endroit, ça fait tant de temps, tant de lits de marche, et c'est à peu près une magnitude quoi. Enfin bon, c'était l'échelle de Richter avant la lettre.
C'est incroyable.
Alors c'est d'autant plus incroyable. Alors, cet appareil a fonctionné quand même pendant 300 ans. Hein. Et il a annoncé tous les tremblements de terre de la Chine. Alors, il a été détruit à un moment, puis reconstruit. Et donc, il a continué à fonctionner. Alors, évidemment, ça serait que ça. Chang Kreng serait déjà un personnage fantastique.
Assez extraordinaire.
Assez extraordinaire. Mais le fait qu'il soit ministre, et à cette époque-là, il y a une autre chose, c'est qu'il était en charge donc du territoire et du ciel en même temps, puisque évidemment le territoire comprenait le ciel. Donc il a fait la première carte de Chine. Alors, d'abord il a commencé par faire la carte du ciel. Et il a fait, c'était un dessinateur d'abord, hein. C'est l'un des 4 plus grands peintres de son temps. On n'en connaît rien de lui, sauf justement ses cartes et ces choses-là. Et il a fait donc la carte du ciel. Et il a trouvé 2500 étoiles, à l'œil nu, hein. Il a dessiné ça à l'œil nu, et il a refait les constellations, et il a nommé des étoiles qu'il avait déjà, disons, qui n'étaient pas connues, mais plus de 500, enfin bon, c'est quelque chose d'assez énorme. Et tout ça à l'œil nu, hein, en tendant des fils sur son pavillon, enfin bon, c'était absolument incroyable.
Oui, parce qu'il a dû mettre beaucoup de temps à faire cette carte. Donc, à mesure qu'il faisait la carte, le modèle changeait.
Justement, alors, tout ça est noté. Vraiment, c'est quelque chose de sidérant. Et en plus de ça, il a inventé des appareils de visée. Ce qui permettait justement de viser et de se rendre compte que les étoiles bougeaient ou ne bougeaient pas, etc. Alors ça, il a fait ça sur l'espace d'un an à peu près. Puis en même temps, il a fait la carte de la Terre. Enfin, bon. Alors ça, c'était encore plus formidable parce que il a inventé finalement le système Mercator avant Mercator. C'est-à-dire qu'il a inventé les méridiens et les parallèles, et il croyait que c'était donc des carrés, et puis il fallait mesurer ça. Alors, la Chine, c'est grand. C'est ça qui est, d'ailleurs, ça a été sa chance. C'est tellement vaste. Alors, il fallait deux choses. Il fallait pouvoir mesurer les routes avec quelque chose de fiable. Alors, il a inventé un char qui calculait. Alors il y avait un char où il y avait deux sortes de marionnettes qui étaient sur le char, une qui tapait sur un tambour et une qui tapait sur une cloche. Alors quand le char faisait un lit, paf, un coup de tambour, et puis 10 lits, un coup de cloche. Alors il y avait naturellement une armée de types qui était derrière, qui notait combien de cloches, combien de machins. Et puis il y avait un autre char, alors ça c'est vraiment étonnant, il a inventé une boussole non magnétique. Alors c'était une boussole, en fait c'était un grand char, sur lequel il y avait une statue de jade, qui indiquait la direction par le bras tendu, hein, qui indiquait le sud. Parce qu'en Chine, évidemment, les boussoles indiquent le sud. Hein. Faut savoir que ils sont le contraire. Ils font le contraire.
Comme ils agrivent de droite à gauche, il faut s'attendre à tout.
Et de haut en bas. Tout à l'envers.
De bas en haut.
Oui, de haut. Ils écrivent de haut en bas, oui. mais de droite à gauche. Enfin, ils écrivaient. Maintenant, c'est plus comme ça. Et donc.
En plus, ça change.
Ça a changé. Oui, en 58, tout a changé.
Ça d'ailleurs.
Même l'écriture romane des caractères. Et alors, c'est ce char qui indiquait le sud. Donc, on aurait pu penser que c'était une idée magnétique. Mais non, pas du tout. C'est en fait, il a inventé le différentiel. C'est le même différentiel qu'on a sur nos automobiles. C'est ça, oui. Et quand le char, disons, tourne, la roue qui va à l'extérieur fait plus de chemin que celle qui est à l'intérieur. Et c'est ce calcul qui est fait par des engrenages. Et faut
imaginer. Donc ça corrige.
Ça corrige, voilà. Et donc la statue indique toujours le sud. Alors, on l'a mis une bonne fois pour toutes indiquant le sud, et puis ensuite on la laisse et ça fonctionne toujours.
Merci Monsieur Serre d'expliquer ce que c'est qu'un différentiel, parce qu'il y a tant de journalistes qui s'imaginent que c'est une façon chic de dire différence.
Oui, c'est ça.
C'est vrai.
Et peut-être quelques-uns de leurs malheureux auditeurs, du coup. Merci beaucoup.
Alors c'est un différentiel, oui, il a inventé ça. Et alors ce qui est assez étonnant, en plus de ça, parce que pour faire ça, il a fallu qu'il approche pi. De très très près.
Ben oui, bien sûr.
Et alors, évidemment, toujours pareil, c'est un homme qui était dans un esprit magique. Donc il a pris des nombres magiques. Alors il a pris le carré de 10. C'était presque ça. Alors,
la racine carrée de 10.
La racine carrée de 10. Et en prenant la racine de 10, ça marchait pas tout à fait. Et là, en corrigeant, toujours avec des chiffres magiques. Alors, après, il a pris 4, il a enlevé de 4, je sais pas, enfin, un autre chiffre magique. Puis, il est arrivé à quelque chose de très très près. C'est comme ça que ces chars et ce fameux différentiel, enfin, ces deux chars ont fonctionné jusque sous les Song. C'est-à-dire que ça a fonctionné pendant deux dynastie. C'est extraordinaire. Et en plus, plus tard, il y a un autre ingénieur chinois qui a fait, sur le même modèle que le char, un bateau à aube, la roue à aube, qui indiquait le sud aussi.
C'est vraiment... Et ce personnage, alors, on a peu d'informations, enfin en dehors de ces travaux, on a peu d'informations.
Aussi, on a beaucoup d'informations sur lui parce qu'il a inventé énormément de choses. Alors, cette fameuse carte, justement, quand il a réussi à faire la carte de la Chine la plus précise qui soit. Mais il s'est aperçu d'une chose, c'est que son système Mercator ne marchait pas parce qu'il y avait une courbure qu'il ne comprenait pas. Et en Chine, surtout à cette époque-là, la Terre c'est très simple, c'est plat, c'est carré, et le ciel c'est rond, et ça tourne dans un sens et les planètes tournent dans l'autre. Bon, ça c'est simple. Sauf que ça marche pas, quoi. Alors il a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait, mais il a dit j'ai compris. L'univers c'est pas ce qu'on nous dit. L'univers c'est comme un œuf. Mmh. Et ça c'est comme un œuf. Et la Terre c'est la boule qui est au centre, c'est le jaune. Et il l'a mesuré. Et c'est comme ça qu'il a corrigé le lit qui faisait 520 mètres, quelque chose comme ça, et il l'a corrigé, et c'est devenu le huitième, hein, évidemment, c'est le quart, c'est le huitième du millionième du méridien, et c'est devenu 500 mètres. Et le lit fait 500 mètres depuis donc 130 à peu près après Jésus-Christ.
C'est-à-dire que
le lit qui avait été inventé par Qin Shi Huangdi, le grand empereur, et lui il avait pensé que ça ferait 120 mètres à peu près. Et la seule correction qu'il a jamais eu, c'est Chang Kren qui en est le
en fonction de la longueur du méridien terrestre.
Voilà.
Et ça, en quelle année? En 132
130, enfin, même avant. Hein.
C'est quand même extraordinaire.
Ah, oui. Et alors, en plus, il a construit la première sphère armillaire. Alors, une sphère armillaire, c'est en fait une vision des mouvements des planètes, etc., qu'il a mis quand même dans une chambre noire, éclairée, et les planètes étaient figurées par donc des miroirs qui se reflétaient sur les plafonds. Et il a expliqué comme ça le mouvement de la Lune, les éclipses solaires, il les a même prédites, etc. Enfin voilà.
C'est ce qu'il y a à Paris, là, au Grand Palais.
Exactement.
Comment ça s'appelle avec les projections des planètes.
C'est ça, le planétarium.
Planétarium. Ouais. Ah oui, c'est un plus.
Une chose quand même moi qui me sidère toujours, c'est la Chine antique a inventé énormément d'inventions capitales que nous autres Européens avons réinventées bien des siècles plus tard.
On les a peut-être pas réinventées. En fait.
Pas toutes, la plupart d'entre elles. Et la question que je me pose, c'est pourquoi les Chinois n'ont pas utilisé leur avancée technologique de l'époque pour se lancer à la conquête du monde comme nous on l'a fait dès qu'on a eu la technologie pour le faire.
Peut-être parce que justement ils ont une conception tout à fait différente de la nôtre. Par exemple, une chose étonnante, ce qu'on vient de dire là, à la Renaissance on a eu ça, et les gens se sont fait brûler. Parce qu'il y avait une parole révélée qui était sur un livre, entre nous c'est la Bible, mais ça peut être le Coran, ça peut être ce qu'on veut, et qui fait qu'une découverte qui a l'air d'aller à l'encontre de cette parole révélée condamne celui qui l'a dit. Tandis que lui, il avait en face de lui d'anciens sages qui pouvaient être contredits. C'est ça, Confucius peut être contredit. Bon, on l'admire et on dit que c'est fantastique, etc. Et que plus on va vers l'ancien, plus on s'en va vers le vrai. Mais on a le droit de changer quand même.
Mais je pense aussi que c'est une question de complexion intellectuelle en quelque sorte, parce que quand ils inventent la poudre noire, ils s'en servent pour faire des feux d'artifice.
Oui, mais ils s'en sont servis aussi pour mettre sur le fauteuil d'un empereur puis l'envoyer sur la Lune.
Voilà. C'était pas dans une intention mauvaise.
Non, c'était lui qui voulait. Lui qui voulait, oui.
Alors que donc, dès qu'on a trouvé la poudre noire, c'est dépêché d'en faire des canons.
Non, mais ils en ont fait des canons bien avant nous. Hein. Et les canons chinois fonctionnaient bien avant nous et étaient bien destructeurs. Non, il y a eu aussi, par exemple, des grands voyages. Il y a eu des empereurs qui étaient pour ça, et puis d'autres qui étaient contre. C'est vrai que le premier grand voyage qui était pour trouver les immortels, hein, le pays des immortels et l'immortalité, c'est Qin Shi Huangdi, le premier grand empereur, qui a envoyé un bateau qui faisait 160 mètres de long, 19 mâts, plusieurs milliers de personnes dessus, et un an de vivres pour ces milliers de personnes, et il les a envoyés pour voir où étaient les immortels. Et les types sont allés là-bas, on pense que ça doit être en Australie, ça arrivait, puis ils sont revenus. Et puis ils ont dit, on les a vus, mais on n'a pas
ils
pu...
Ils sont trop vite,
on n'a pas vu. Y aller. Alors l'empereur a dit, bah, c'est très simple, on va faire des bords plus hauts, puis on va mettre d'autres bateaux avec. Et ils sont repartis, malheureusement l'empereur est mort entre temps, et puis voilà, donc on n'a jamais su s'ils étaient revenus, s'ils avaient trouvé les immortels, etc. Mais quand même un bateau de 160 mètres de long, là c'est 220 avant Jésus-Christ. Hein.
Ouais, c'est extraordinaire.
C'est inimaginable.
Voilà pourquoi je voulais que Patrice vienne ce soir, parce qu'il il regorge d'histoires comme ça, et je dois faire une confidence, c'est que... Je l'ai pas inventé parce que il y a quelqu'un d'autre qui a une émission probablement plus écoutée que la mienne qui s'appelle Marc Menant sur Europe 1 et dont tu es un invité, un habitué,
voilà, c'est ça. Ouais.
Je suis content que tu aies accepté de venir parce que je trouve cette histoire c'est merveilleux, ça fait rêver.
C'est ça.
Ça ouvre des fenêtres sur une civilisation qui est totalement méconnue chez nous. Que, bon, moi ce que j'en connais, je peux dire, c'est les enquêtes de justice. Et,
c'est déjà,
et,
c'est déjà fantastique.
Et puis le formidable bouquin qui s'appelle Au bord du ruisseau.
Mmh, au bord de l'eau.
Ouais. Au bord de l'eau, ouais. qui est un truc énorme. C'est à la fois les trois mousquetaires. Voilà. Les trois mousquetaires, Yvan Noé, Robin des Bois, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, c'est toute la littérature épique et picaresque autour des aventures des bandits, des eaux, et des roseaux et des herbes, je crois que c'est comme ça. qui montre
c'est justement à peu près à l'époque de disons c'est un petit peu plus tard
un tout petit peu plus tard. On découvre cet univers qui est assez fascinant parce que c'est plus dépaysant que n'importe quel bouquin de science-fiction hein.
Oui.
Merci Patrice, cette brochure on peut se la procurer?
Oui, on peut se la procurer au Goral.
Très bien, justement, au Goral.
Le téléphone, c'est le 01 45 40 73 27. Le fax, c'est 01 45 40 47 17. Et puis, on peut nous joindre par mail à goral@wanadoo.fr.
Et pour ceux qui n'ont pas le téléphone et qui n'ont pas d'Internet, vous pouvez simplement envoyer une lettre avec Patrice Serre, SE2RE, au bon soin du Libre Journal, 4 Place France Litz, 75-010 Paris, mais Patrick, l'autre...
Avec un S au bout.
Sinon, c'est vrai, quand on voit ton gabarit, on imagine que vous devez être plusieurs à l'intérieur de cette grande
bâtisse. C'est ce que disait l'autre serre dessinateur.
Donc, vous écrivez au Libre Journal en mettant bien Patrice Serre, donc SE2RES, au bon soin du Libre Journal, 4 Place France 6, 75-010, et on parie, et on fera suivre à Patrice vos adresses, vos commandes, si vous voulez. Il y a un prix, non? On peut peut-être le donner.
10 euros.
Et puis, tu reviendras nous voir pour nous parler du Goral, parce que dans une période où on a le droit de parler de ces choses interdites, je ne parlerai jamais de ça sous le regard déjà accusateur du père Argouache, qui se dit qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer avec son espèce de variante du Z-King et autres activités de cartomancienne. Enfin, en attendant que vous ne soyez pas là.
Et autres superstitions condamnées par l'Église.
Oui, monsieur Goffman.
Heureusement que je suis là pour le rappeler.
Oui, ça c'est.
Les condamnations n'ont pas toujours été ce qu'on a dit d'elle.
Parce qu'on a bien
utilisé aussi un certain nombre d'arguments. Et quand on étudie l'histoire, on s'aperçoit que les ennemis de l'Église n'ont pas dit toujours la vérité sur ces condamnations. Il faudrait les éclairer en faisant un petit peu d'apologétique.
Je vous rappelle quand même que j'ai publié un grand papier sur Giordano Bruno,
voilà.
le faux condamné.
Et un auditeur demande, pouvez-vous prouver que des gens ont été brûlés à la Renaissance pour avoir fait des découvertes refusées par les autorités de l'époque?
Ça fait partie de la vulgate.
Il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que le fameux Fibonacci, Léonard de Pise, qui a amené le zéro en Occident, c'est lui qui a amené le zéro en Occident, a été brûlé pour ça.
Alors, sous réserve d'inventaire.
Voilà.
Mais Fibonacci, tu sais que c'est une de mes obsessions. Je passe mon temps à essayer de faire des trucs avec la suite de Fibonacci. Je suis d'ailleurs pas capable d'extraire une racine carrée. Donc, c'est-à-dire à quel point je suis mathématicien. Mais ça, la suite de Fibonacci, c'est fascinant.
Ah oui.
Absolument fascinant.
Je te montrerai des choses.
Hein? Voilà. On donne la parole à la parole.
La parole des casseurs.
Je signale à l'aimable assistance que je bois Vittel. C'est vous dire dans quel état je suis au départ. Fersan Henri de votre Libre Arverne, c'est intéressant cette fois-ci. Non, il n'y a pas de raison, j'ai fait de la pub, je peux le casser un peu.
Oui, il est vilain. Vous me faites penser à une lectrice du Libre Journal qui a occupé toute la page courrier dans le numéro 290, au cas où vous ne l'auriez pas reçu, Henri de Fersan. Et donc, elle nous raconte sa vie passionnante, d'ailleurs, ouais. Hein, à Belloy, en France. Et à un moment, elle dit « Ah, aujourd'hui, comme toutes les quinzaines, j'ai reçu l'hebdomadaire Le Libre Arverne. »
Oui, parce que figurez-vous que cette lectrice m'avait aussi envoyé cette lettre en email et qui est, d'ailleurs, une abonnée non seulement du Libre Arverne, mais des lettres Fersan. Et d'ailleurs, j'en profite, puisqu'en plus elle nous écoute ce soir, de la saluer au passage.
Voilà. En tout cas, elle était contente de recevoir, comme tous les 15 jours, votre lettre de la mer. Bing, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans le prochain numéro?
Alors, dans le prochain...
D'avouable, hein, parce que...
Oui, je sais.
Il y a des choses qui sont dans le Libre Arverne, mais qu'il n'est pas question de dire à la radio. Il faut lire ce journal pour savoir ce que c'est.
Alors, dans le prochain numéro du Libre Arverne, je fais mon petit commentaire personnel sur un article paru dans un magazine féminin qui s'appelle Elle, sur les troubles ou le mal-être qu'auraient les hommes actuellement dans nos belles sociétés occidentales.
Oui, bah, j'imagine ce que vous allez nous dire.
Voilà,
moi, je... La solution au mal-être du mâle occidental. Hein?
Bon, je n'ai pas de solution, oui. Personnellement.
Visitez la famille Fersan.
Voilà,
vous aurez compris tout de suite.
Faites comme moi.
Ayez une belle-mère en sucre, une
et
femme
épousez,
en or.
Épousez une jeune fille qui sort des pensions de la tradition et vous n'aurez jamais de malaise.
Ah, bah c'est tout simple alors.
Voilà, la recette est très simple. Voilà. Alors, également un article sur les curieuses méthodes d'achat de livres dans les bibliothèques.
Ah.
Voilà. Et donc, c'est tiré d'une dépêche qui a été publiée par nos excellents confrères des Faits et Documents et que j'ai agrémenté, que j'ai largement complété avec mon expérience personnelle, puisque j'ai été moi-même, Dieu merci pour la fonction publique, seulement 6 mois directeur d'une...
Notre carrière à l'un et à l'autre dans la fonction publique, enfin la fonction municipale a été...
Supersonique.
Lui, il a été directeur de la bibliothèque d'Orange. Municipale d'Orange pendant 6 mois, voilà. Et moi j'ai été directeur de la communication de la mairie de Toulon pendant 4 mois. Avant de m'apercevoir que c'était vraiment pas ma tasse de thé. Mais cette expérience vous a servi à vous.
Oui, tout à fait. Notamment pour expliquer un peu quelles sont les curieuses méthodes, la curieuse déontologie des bibliothécaires. Parce qu'en plus, il se trouve que l'une des principales, entre guillemets, théoriciennes de la déontologie d'achat dans les bibliothèques municipales, il se trouve que c'était très précisément ma prédécédrice à la bibliothèque d'Orange.
On dit prédécédrice ?
Oui, depuis la féminine.
La dame qui était avant vous.
Voilà.
Voilà, d'accord.
Et qui est partie pour divergence d'opinion avec la nouvelle municipalité.
Ah, oui, j'imagine qu'effectivement.
Et elle a une déontologie d'achat pour le moins...
Oui, le document voilà. Est très intéressant. Hein. Il faut lire ce truc. C'est ahurissant parce qu'il... Ils disent la vérité, les gars. Ils disent, voilà, il faut pas acheter ces livres-là, on n'achètera plus, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut les casser, voilà comment il faut les censurer.
Là-dessus, j'ai d'ailleurs une expérience tout à fait personnelle. Lors d'une fête de livres de nos milieux, il se trouve qu'un intellectuel français ayant pignon sur rue, qui est donc fréquenté nos milieux, mais à titre de lecteur et puis de participant, mais qui a pignon sur rue, a pris mon dernier livre, L'imposture antiraciste, l'a parcouru, l'a bien lu pendant 10 bonnes minutes, l'a reposé sur le stand, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, vraiment très très bon livre, très bien documenté, quel dommage, on n'en parlera jamais.
Ouais. Dans les documents que vous évoquez dans le Libre Arverne, il y a notamment la lettre d'un directeur de bibliothèque qui dit « Nous avons reçu un catalogue des éditions du Alpha. »
De notre confrère et ami Philippe Randa, que je salue au passage.
Et donc, « Nous avons reçu un catalogue des éditions du Alpha. » Il apparaît à la consultation de ce catalogue que c'est un catalogue qui publie des livres de droite. Donc, censure et boycott total et général et définitif.
Merci beaucoup pour la bonne nouvelle. Je me prépare à annoncer un livre chez du Alpha. Je suis bien content d'entendre ça.
Il ne sera pas dans les bibliothèques municipales.
Voilà. Et le plus drôle, c'est qu'il a reçu donc la lettre finale appelant ce censure, était la présidente d'une sorte de syndicat majoritaire et quasiment exclusif des bibliothécaires, et j'ai fait ma petite enquête personnelle en complément donc des révélations de nos confrères de Faits et Documents. J'ai fait ma petite enquête personnelle et il se trouve que la dame en question est, aux surprises générales, encartée à un parti politique qui est très très centriste sur l'échiquier politique, puisqu'il s'agit de la Ligue communiste révolutionnaire.
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le Front National. Voilà, il manquait plus que ça.
Donc, c'est...
Est-ce qu'on peut m'expliquer les choses un peu mieux, puisqu'elles m'intéressent tellement? Est-ce qu'il s'agit de directive ou d'un document d'orientation?
Non, c'est d'orientation plutôt.
D'orientation.
Ils ne peuvent pas donner directive.
Justement, alors,
enfin, nous sommes tous d'accord.
Donc, les bibliothèques restent libres d'acheter des vilains livres.
Elle reste libre, mais disons que si la bibliothécaire veut passer au grade de bibliothèque chef, elle a intérêt à faire ce qu'on lui dit de dire. Et il pousse l'hypocrisie jusqu'à dire il ne faut surtout pas laisser de traces écrites des livres qui sont interdits de séjour dans nos bibliothèques pour pas que ces listes tombent entre les mains de l'extrême droite et qu'elles puissent ainsi s'ériger en martyrs.
Ils sont très bien, ces gens. Je les aime bien, décidément.
Bon, je voudrais pas vous lancer une pique, chers camarades, mais les trotskistes, quand ils s'y mettent, ils sont pas mal, hein.
Il est vrai que j'étais encore trotskiste il y a à peine 25 ans. Il faudrait quand même que je le paye.
Non, mais ça, alors ça c'est comme jadis la syphilis, on n'en blanchit jamais.
Non, je vous taquine parce que moi aussi, pareil, alors, on se complaît toujours à me ressortir certaines choses.
Vous étiez officier de marine, c'est quand même moins grave. Alors, l'adresse de votre lettre.
Alors, c'est
les conditions d'abonnement.
Conditions d'abonnement, donc c'est le Libre Arverne, 4 route de Bournazet. B-O-U-R-N-A-Z-E-T.
Comme l'homme à la veste rouge, mais sans L.
Bellevue, ça c'est le lieu dit. 63 870 Orsines. Alors les conditions d'abonnement. Vous pouvez. Donc l'abonnement annuel est à 156 € pour 52 numéros, sachant que l'on peut payer en 4 mensualités de 39 €. On peut avoir un exemplaire de démonstration en envoyant un carnet de timbres à l'adresse indiquée. Ou en m'envoyant, on peut aussi prendre contact avec le journal et la maison d'édition en m'envoyant un petit email à mon adresse internet hdf@tiscali.fr ou en consultant mon site internet www.hdf.fr.fm.
Comme franc-maçon.
Donc c'est pas gnostique.
Libre journal, c'est pareil, hein, c'est librejournal en un seul mot, .fr.fm. Bon, ben voilà, Patrick Goffman, peut-être quelques mots sur l'excellent journal dont vous êtes le secrétaire de rédaction.
D'autres sujets. Je voudrais d'abord, Serge de Becquetch, saluer la crème des auditeurs qui nous occupent actuellement, puisque le journal télévisé est bien engagé. Donc, ceux qui ont choisi de rester avec nous sont, à mes yeux, en tout cas, de sans télé. L'élite de l'élite et la crème de la crème. Alors je commence par leur dire que, et en particulier à nos auditeurs des Yvelines, qu'en allant prêcher le libre journal devant l'église Saint-Louis où le père Aguarche prêchait le carême, j'ai rencontré la troupe Hélène et Tatiana, troupe théâtrale de l'école Saint-Dominique du Pec, qui vous convie à aller voir Diable d'homme de Robert Lamoureux, vendredi 2 mai et samedi 3 mai à 20h30, pour des raisons de sécurité, invitation exigée, donc les d'invitation, ce sont des places payantes. Si vous êtes intéressé, vous envoyez 8 € par billet à Madame Dejouy, D-E-J-O-U-Y, 47 bis avenue de l'Abreuvoir, 78 160 à Marly-le-Roi.
Et cette pièce est vraiment excellente. Je l'avais vue il y a quelques années quand elle était montée à Paris avec Robert Lamoureux. Elle est hilarante et elle amène, d'ailleurs comme le titre l'indique, il est question d'une certaine personne dont on ne doit pas citer le nom. Et elle amène les spectateurs à prendre conscience de la petitesse des choses de ce monde.
Merci beaucoup Henri, ça m'amène à préciser.
Si je peux donner un renseignement supplémentaire. Vous pouvez pour tout renseignement téléphoner au 01 39 16 28 70.
J'ai un autre numéro de téléphone pour les renseignements, 01 39 16 33 58. Et j'ai oublié de dire bon, que ça aura lieu au théâtre du PEC sur Seine, 3 quai Voltaire au PEC. Voilà. Je passe, avant le libre journal proprement dit, à une nouvelle internationale et exclusive peut-être encore pour aujourd'hui. Nous sommes le Radio Courtoisie et le Libre Journal de Serge de Becquetch ont été absolument seuls pendant les 6 mois qui ont suivi le mois de juillet dernier à rendre compte régulièrement de l'affaire Limonov. Je pense que nous sommes les premiers à en donner l'épilogue provisoire sans doute qui vient d'avoir lieu. Donc nous apprenons hier 15 avril par le site isvestia.ru, relayé par fax au bureau du Libre Journal par un de nos lecteurs, qu'Edouard Limonov, dont je ne rappelle pas une millième fois la personnalité et l'affaire, la provocation qui l'a conduit en prison depuis 2 ans, Edouard Limonov a été condamné hier par le tribunal régional de Saratov à 4 ans de prison. Je ne vais pas trop commenter cette sentence. J'ai déjà parlé trop souvent et trop longtemps de cette affaire. Disons qu'il faudrait peut-être que nous soyons joyeux et heureux en apprenant que le tribunal a bien voulu laver Limonov des accusations de préparation au terrorisme, tentative de créer une bande armée illégale, appel à la prise du pouvoir, changement du régime constitutionnel russe. Le laver de l'accusation d'avoir voulu prendre le pouvoir au Kazakhstan avec deux Kalachnikov d'occasion, c'est très généreux au tribunal. Néanmoins, nous ne pouvons pas, je dis nous, les 150 éditeurs intellectuels de tout poil, écrivains, qui avons signé la pétition pour la libération de Limonov, nous ne pouvons pas accepter, bien entendu, ces 4 ans de prison. Il nous semble que le FSB, l'ex-KGB, a mis à profit, exactement comme Castro vient de le faire, l'actualité internationale un peu chargée pour matraquer tout de même Limonov, qui est parfaitement innocent, non pas innocent tout court, mais innocent des crimes absurdes dont l'accuse le KGB, le matraquer avec ses 4 ans de prison. Donc ça n'est pas terminé. Pour moi, j'en termine sur cette affaire Limonov en annonçant que mon livre, c'est beaucoup dire, mon dossier sur l'affaire Limonov vient de paraître aux éditions du Alpha, maudite, comme viennent de l'expliquer Henri de Fersan et Serge de Beketch, mais enfin, il y aura peut-être quand même quelques libraires pour acheter ce livre, et en tout cas certainement beaucoup des auditeurs qui nous font depuis près de 2 ans la grâce d'écouter le compte-rendu de cette affaire. Ils peuvent le faire donc uniquement, pour l'instant, ce ne sera diffusé que dans de très rares librairies, uniquement par correspondance, mais le port est gratuit pour les auditeurs de Courtoisie, qui envoient donc 19 euros à Du Alpha Diffusion, BP 58, 77 522, Coulommiers, CEDEX. Dernier point, je présenterai ce livre et je présenterai l'affaire Limonov devant le Cercle, une association d'étudiants, 19 avenue des Ternes à Paris, Paris 17e, métro Ternes, le vendredi 2 mai à 19h30, et il y aura d'autres réunions, d'autant plus que la précédente, et là encore je dois des excuses aux auditeurs qui se seraient cassés le nez, la réunion du 8 avril, au cours de laquelle je devais présenter cette affaire, a fait l'objet d'une provocation insigne, puisqu'elle était annoncée depuis un mois et que la veille, la gargotière qui devait nous recevoir me convoque pour me dire qu'elle a reçu de graves menaces. Quelle menace, madame ? Je refuse de le préciser. Dans le même temps, l'organisateur, que je ne nommerai pas non plus, de cette réunion, me convoque également pour me reprocher sur un ton hystérique et de tels cris qu'il ne me permettait pas de répondre, la publicité faite autour de cette réunion. En général, les gens qui organisent des réunions sont contents de la publicité qu'on leur fait. Bon, mon organisateur, moi, était fou furieux d'avoir vu sa réunion annoncée dans Rivarol, merci à Rivarol, dans Présent, je crois, dans le Libre Journal et sur Radio Courtoisie. Et il m'a fait une scène sans m'expliquer davantage son objet. Je rassure. Ah, donc, je m'excuse auprès des éditeurs qui sont arrivés trop tôt ou trop tard. Moi, j'ai attendu entre un quart d'heure avant et après l'heure dite. C'était 8h. Et puis, donc, il faut dire que remercier cette fois Pierre Pujot et les jeunes d'Action française qui nous ont abrités au cas où les menaces auraient été réelles dans leur siège tout proche. Et puis la réunion a eu plein succès dans un autre bistrot 50 mètres plus loin, dans une salle privée où tout le monde a pu, comme c'était prévu, déjeuner ou dîner. Voilà, dernier point. On n'a plus que 12 minutes. Donc,
c'est fini.
Non, c'est 8 minutes maintenant.
Il y en a combien ?
4. Mais il faut faire très vite.
4 avec ça. Hein.
4 avec les annonces. Donc je dis très vite que j'ai un billet de train à aller pour Nice. Je vais faire le reportage pour le Libre Journal au Congrès du Front. Et je pense retrouver et regagner quelques-uns des abonnés que nous aurions peut-être perdus en 99. Je ne peux pas donner alors le sommaire du Libre Journal. Je donne seulement son adresse. On a un spécimen en envoyant un carnet de timbres. On a un abonnement d'un an, 3 numéros par mois, en envoyant 110 euros à SDB 4 place Franz Liszt, 75010 Paris.
Merci Patrick. À vous, ma chère amie. Attendez, je vais quand même un message que vous ne voulez pas le faire.
C'est après, c'est trop long pour vous. C'est au mois de mai. Alors,
ah bon, d'accord.
Alors, c'est les autres. Lundi 21 avril, dans le cadre des rencontres culturelles de Paul Biller, lundi 21 avril, le Palais Royal, rendez-vous à 15h, 4 Galerie Montpensier, métro, Palais Royal. L'association Voix des Français organise une grande manifestation contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne le samedi 26 avril à 14h30. Rendez-vous place d'Enfer-Rochereau, côté boulevard Raspail, métro d'Enfer-Rochereau. Renseignements complémentaires au 01 42 67 22 05. Convention nationale pour l'unité des mouvements souverainistes. Samedi 26 avril, de 9h à 18h, ASIEM, 6 rue Albert de Laparent, Paris 7e. Contact Anne Devorex, téléphone 01 34 75 19 05. Je ne dis pas tous les noms, on les a dit la semaine dernière, vous pouvez les avoir par le secrétariat. La librairie Âmes et Racines vous convie à un nouveau rendez-vous d'exception le samedi 26 avril à partir de 14h30 à la séance de dédicace du livre Historiquement Correct écrit par Jean Sévilla.
Historiquement Correct, c'est le titre, hein, c'est pas le contenu du livre parce qu'il n'est pas historiquement correct.
Et Âmes et Racines, c'est à Versailles.
Alors je vous donne l'adresse, librairie Âmes et Racines, 11 place Saint-Louis, 78 000 Versailles. Téléphone 01 39 51 21 50. Le mardi 29 avril à 20h30 précise, au Novotel Créteil-le-Lac, une conférence, l'association culturelle La Vigie organise une conférence débat animée par Dominique Vénère, 30 000 ans d'identité européenne. Prix adhérent 4 euros, non adhérent 6 euros. Les cercles littéraires du Roseau d'Or proposent une conférence de Philippe Delavaux, La poésie, une aventure spirituelle, le mardi 29 avril de 20h à 21h, au parloir du Colombier, 9 rue du Vieux Colombier, Paris 4e, métro Saint-Sulpice. Entrée libre. Renseignements 01 46 80 69 28. Jeudi 1er mai, tous au défilé de Jeanne. Rassemblement dès 9h30 derrière les barrières des provinces de France. Je vais bientôt être obligée de vous abandonner, Serge. Les bannières des provinces de France et les drapeaux de Chrétienté Solidarité, rue de Rivoli, au plus près de l'hôtel de ville. Le prochain dîner débat de Radio Silence aura lieu le mardi 6 mai à 19h30 avec M. Vladimir Volkov sur le thème catholique et orthodoxe, ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Restaurant Le Grenadier au premier étage de la gare d'Austerlitz. Multiples possibilités de parking autour de la gare. Prix par personne 22 euros. Et s'il vous plaît, envoyez dès maintenant votre chèque de réservation de 22 euros à La Voix du Silence, 5 rue Dufrénoy, 75-116 Paris. J'ai presque fini. Alors, le livret, de l'édition 2003 du livret de vacances catholiques vient de sortir. Destiné à aider les familles à organiser de bonnes et saintes vacances, ce livret, édité par l'Institut Civitas, dresse l'inventaire de la plupart des activités proposées pour les jeunes et pour les adultes au sein d'organisations ou de mouvements dont les organisateurs sont en pleine communion avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, cet été du 1er mai au 31 octobre. Prix du livret, 2 euros, plus 1 euro pour frais de port. Alors, au nom de Institut Civitas, a commandé à Bruno Guinche, G-I-N-C-H-E, 4 rue de la Poterie, 14280 Saint-Contest, C-O-N-T-E-S-T, téléphone fax 02 31 47 96 98.
Toutes ces informations seront dans le prochain numéro du Libre Journal, recensées soigneusement. Pour finir, je vous rappelle le pèlerinage de San Damiano du 1er au 4 mai 2003. qui se déroulera, donc de Paris-San Damiano, évidemment, du 1er au 4 mai, je viens de le dire. Pour tout renseignement, 02-51-94-90-71. 02-51-94-90-71. Merci d'avoir été si patient, de nous écouter. Merci à Patrick Goffman de m'avoir brillamment assisté. Merci à Patrice Serre de nous avoir fait rêver à la Chine. Merci à Henri de Fersan, de rien d'ailleurs.
Merci.
Merci d'exister, d'être là, parce qu'on vous aime bien, on vous aime beaucoup d'ailleurs. On a tort, mais c'est comme ça. Et merci à Victoria.
Et la technique, elle peut
de la bouche. Franck, je le sais, je lui dis merci après l'émission. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 avril de 18 à 21h, en différé jeudi 17, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue.